Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on va passer 2 heures en votre compagnie. On va se régaler pendant 2 heures jusqu'à 20h comme tous les soirs. Et surtout, profitez de nous parce que c'est l'avant-dernière émission avant les fêtes. Et oui, on va profiter de ça comme tout le monde. Et puis de toute façon, on est très heureux vraiment de partager cette émission pendant 2 heures avec vous, avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va?
Bah ça va, je suis content de voir que tu m'adresses encore la parole parce que ça a un peu chauffé quand on a préparé l'émission. T'étais pas très satisfait des débats, mais c'est pour ça que ça va faire une grande émission.
Mais, oui, mais t'aimes m'énerver avant la fin de l'année.
C'est
écoute,
vrai.
En tout cas, j'ai pas besoin de toi parce qu'il y en a d'autres qui m'énervent des fois. On est aujourd'hui avec Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Ouais. Salut Jérôme, salut Benoît, bonsoir à tous.
Salut Dugar, t'es en forme?
Ça va très très bien les copains.
Bon, super. Écoute, on va se régaler parce qu'on a notre ballon d'or qui est avec nous, c'est Jean-Pierre Papin.
Ah oui.
Salut JPP.
Salut Jean-Pierre.
Salut Jérôme. Salut Dugas.
Ça va du coup, ça va Jean-Pierre?
Ouais, ça va nickel.
Bon.
Tu vas voir, ça va te plaire les débats JPP aujourd'hui.
Ouais.
Un grand Roten sans flamme.
C'est fait pour toi Jean-Pierre. Hein.
Jusqu'à 20h.
Ouais. Merci.
Avec à 18h30 ce procès que toute la France attend. Le procès de tous ceux qui pensent que Matvei Safonov a relancé la concurrence avec Lucas Chevalier au poste de gardien de but. Grand procès à venir à 18h30 donc dans Roten sans flamme. Autre débat qui va concerner le Paris Saint-Germain, celui qui a rendu fou Jérôme Roten ce matin. 19h, Roten se chauffe. Reverra-t-on un jour le grand Ousmane Dembélé, 32-16, supporter parisien?
C'est ça qui l'a énervé.
Ouais.
Ah bon?
32-16 pour participer au débat. Vous verriez sa tête, là, c'est fou les
tags. Non, mais pas du tout, mais.
Ouais, c'est dingue.
Mais t'aimes ça,
j'adore. À 18h45, un mot de Coupe de France.
Avec ouais, je sais.
Un invité qu'on est ravi d'accueillir. Allô Jérôme. Claudio Beauvu, ton ancien partenaire.
Ouais.
À Bastia.
Je suis content de le revoir.
Grande carrière en Ligue 1. Il a gagné la Coupe de France avec Guingamp en 2014. Il évolue aujourd'hui à l'AS Gosier, un club guadeloupéen qui va affronter Lorient ce week-end en 32e de finale de Coupe de France. Claudio sera en studio avec nous à 18h45. On est ravi de l'accueillir. Et puis, Jérôme, tu l'as dit, avant-dernière émission de l'année 2025, c'est le jeu de Noël qui est là.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Et s'il y a un jour où il faut jouer, c'est bien aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous allez remporter la case du jour. Où se cachent des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5, des Nintendo Switch 2, grâce à Micromania Zing. Mais surtout aujourd'hui, c'est la journée du double cadeau. Ça veut dire que vous gagnez le cadeau du jour en question aujourd'hui, donc le 18 décembre. Et en plus de ça, vous avez le choix d'ouvrir une case entre le 19 et le 24. Vous repartez avec 2 cadeaux ce soir dans Roten sans flamme sur RMC. Envoyez donc Noël par SMS au 732-16. Noël,
c'est le jour pour s'inscrire aujourd'hui. Bah,
deux cadeaux.
Vu la tête des cadeaux, c'est magnifique.
Tu pars avec le MacBook Air et la PlayStation 5. Ce serait beau ça quand même. Et pourquoi pas?
Pourquoi pas? Et ça, très très beau cadeau, je vous dis, vous ne serez pas déçus.
Ouais. Allez,
et
18h30.
Demain aussi, donc les 2 jours, là, allez-y.
Il faut jouer. Noël par SMS au 732-16. 18h03 tout de suite, Paris continue d'écrire l'histoire.
Écris l'histoire, tout est entre les lignes.
Après tant d'années d'attente, c'est un plaisir.
Mendes face à Vicario, c'est parti, et le but! Paris remporte un trophée de plus en 2025!
Safonov, s'il en sort un quatrième de suite, ce serait exceptionnel! Et il le sort!
Mais c'est incroyable! C'est incroyable!
La coupe intercontinentale!
Mais putain, alléluia!
Marquinhos qui embrasse le trophée et il le lève. Le PSG a remporté son 6e trophée.
On est content, on continue à gagner des trophées et je pense qu'on a mérité ce trophée.
Ce qui s'est passé hier est quelque chose qui.
Le Paris Saint-Germain est donc devenu hier soir le premier club français de l'histoire à remporter la Coupe Intercontinentale, victoire au tir au but face au Brésilien de Flamengo, le 6e trophée de l'année pour le PSG, Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, Super Coupe d'Europe et désormais Coupe intercontinentale. Une année inoubliable, impossible à répéter, c'est ce qu'a déclaré Luis Enrique. Parlons-en avec Aurélien Tiercin qui est dans ce studio. Salut Aurélien.
Salut les amis.
Salut Aurélien.
Alors avec ce sixième trophée sur une année civile, Paris est rentré dans un club très fermé hier.
Exactement, parce que sur une année civile, simplement le Barça 2009 et le PSG 2025 a réussi ce sextuplé. On peut ajouter aussi le Bayern Munich 2020 avec Hansi Flick qui l'a réussi sur la saison 2019-2020. Autre petite différence, la Coupe intercontinentale est une sorte de nouvelle Coupe du Monde des clubs, ancienne version, et la Coupe du Monde des clubs que a joué le Paris Saint-Germain est toute nouvelle, avec, qui est plus longue, plus dure. Donc c'est un petit peu compliqué de comparer sur ça, mais en tous les cas, les trois équipes ont gagné donc ces six trophées. Le PSG, tout proche d'un septuplé, pardon, puisque évidemment finale en plus de la Coupe du Monde des clubs perdue contre Chelsea 0-3. Si on prend les compétitions domestiques, le PSG c'est le champion le plus large avec 19 points d'avance sur son dauphin de l'Olympique de Marseille. Invaincu jusqu'à la 30e journée de son championnat, mais le Bayern a été le rouleau compresseur habituel et le Barça est peut-être le plus beau champion avec par exemple une victoire 6-2 en 2009 au Real Madrid contre le Bernabéu, 105 buts marqués. En Ligue des Champions, là le PSG ricrac un peu toute la saison pour finalement exploser l'Inter 5-0 en finale. C'est la victoire la plus large de l'histoire en finale justement de la Ligue des Champions. Le Barça a déroulé sur toute la saison, une victoire contre Manchester United en finale 2-0, et le Bayern, c'est l'édition 2020 qui est un peu particulière, le Final 8 avec le Covid, l'édition Covid, mais il y a quand même le 8-2 en quart de finale contre le Barça justement de Lionel Messi. Individuellement, les trois équipes ont eu le meilleur joueur de la saison, deux ballons d'or, Messi 2009, Dembélé 2025. En 2020, le Ballon d'Or n'est pas attribué à cause du Covid, mais le FIFA Best Man, c'est Robert Lewandowski, ah oui, qui avait marqué d'ailleurs 55 buts en 45 matchs. C'est le meilleur ratio des trois, puisque Dembélé n'a marqué, entre guillemets, que 35 buts en 53 matchs. Et c'était un petit Messi, évidemment, entre guillemets, à l'époque, 38 buts en 51 matchs. Après le Paris Saint-Germain, là où il écrase tout, c'est qu'il y a le meilleur coach, Luis Enrique, le meilleur gardien, Donnarumma, et deuxième place pour le meilleur espoir, Désiré Doué, derrière Lamine Yamal.
Merci Aurélien. La une de Rotten sans flamme, est-ce que ce PSG est la plus grande équipe de l'histoire sur une saison 32-16 pour participer avec nous, Jérôme? Est-ce que tu le mets tout là-haut, ce PSG?
Non, mais alors moi, parce que je vais manquer d'objectivité avec tout ce que les émotions que ça m'a procuré cette année en tant que Parisien et en tant que supporter depuis tout gamin de ce club. Forcément, moi, je le place tout là-haut, mais en essayant de penser un petit peu comme les gens, je pense que comme Duga et Jean-Pierre, je sais pas ce qu'ils vont dire, mais je pars du principe qu'ils font partie des meilleurs, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut comparer et dire que c'est mieux que Barcelone 2009? Est-ce que c'est mieux que le Bayern 2020? La vérité, c'est que ces trois équipes-là ont marqué l'histoire parce qu'ils ont tout gagné sur une année. Toutes les compétitions qui étaient devant elles, ils les ont gagnées. Le PSG t'a rajouté, donc en effet, la Coupe du Monde des clubs, comme l'a dit Aurélien, et ils sont allés jusqu'à la finale. La finale, ils l'ont perdue. Ils ont pris une leçon contre Chelsea, il faut l'accepter. Mais si tu veux, sur l'ensemble de l'année, quand je vois la maîtrise du Paris Saint-Germain, l'identification au club, parce que pour moi c'est hyper important, et ce qui était le cas de Barcelone en 2009, c'était le cas du Bayern en 2020, le PSG a réussi ça, Luis Enrique et son staff, ils ont réussi ça, le président aussi, parce que il a changé des choses dans la structure du club et dans l'ambiance de ce club, et tout de suite on a senti que les joueurs s'étaient imprégnés de tout ça, contrairement à avant, et c'est pour ça que le PSG a gagné. Donc en fait, collectivement, ça a été la razzia totale, la progression, tout ce qu'on aime du foot de toute façon, voir une équipe en début d'année qui faisait déjà des bonnes choses, hein, ils sont pas devenus très bons du jour au lendemain. En début d'année, on se souvient de l'année dernière, il manquait d'efficacité, ça c'est sûr, il y avait des choses à corriger, mais cette équipe, elle a progressé. Tous les mois, toutes les sorties, elles progressaient pour arriver à enchaîner une constance, une régularité qui était incroyable l'année dernière. Vraiment, la force qu'il dégageait, que ça soit sur les matchs de Coupe de France, sur les matchs de championnat ou sur les matchs de Ligue des Champions. Franchement, on a vu à chaque fois une équipe qui, à partir du mois de février-mars, là, qui avait un niveau d'exigence, c'était incroyable. Et vraiment, moi, pour clôturer, si tu veux, cette saison dernière magnifique, historiquement avec cette Ligue des Champions. Tu gagnes 5-0 en finale, tu mets une leçon à l'Inter. Et très vite, on a vite compris, on était au stade, qu'il n'y aura pas de match. Bien sûr que ça marque les esprits et ça marque l'histoire. Et que une équipe comme le Paris Saint-Germain, comme Barcelone en 2009, ou le Bayern, malheureusement pour eux, c'était la période Covid, donc il a manqué un peu cette communion. Et ce qui fait le charme du football aussi, la communion avec les supporters, avec les gens dans le stade et tout ça. C'est sûr que quand tu joues sans supporters, il y a un petit manque. Et le petit manque, c'est pas retirer leur fabuleuse saison au Bayern. Mais la vérité, c'est que 2009 Barcelone et Paris 2024-2025, bah, c'est deux équipes rayonnantes qui, voilà, c'est la totale. Et pour moi, ça va être difficile de les dépasser. Ouais, c'est sûr.
Mais bah de rééditer cette performance.
Ça va être très compliqué à tous les niveaux. En termes de trophées gagnés
et d'impression et de
force collective des joueurs. On va parler tout à l'heure de Dembélé. Dembélé, quand tu vois comment il s'est transformé aussi, ce qu'il refera ou pas, ça on en parlera à 18h30, mais n'empêche que ces joueurs-là ont tellement progressé sur une année, moi ça a été incroyable, et franchement, pour les émotions, le Paris est tout là-haut.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dugas, alors ?
Oh, c'est difficile. Ce qui est beau, c'est que déjà Paris est dans ce trio-là. Pourquoi il faut en choisir un mieux que les autres? Ces trois équipes-là, ces trois clubs-là vont marquer l'histoire, et c'est bien ça qui est le plus important. Pourquoi à chaque fois qu'il y a trois clubs qui sortent du lot, il y en a déjà trois qui sont extraordinaires, il faut encore en choisir un.
Ouais.
Sincèrement, j'ai pas envie. Moi, ce que j'aime bien dans l'histoire de Paris, c'est que ils sont en plus dans une année de transition. Donc tout ce qui est arrivé, c'est une surprise total. Personne ne s'imaginait ça. On a beau tourner, virer, que ce soit la performance des jeunes, des nouveaux comme Doué, comme Barcola, l'arrivée de Kvaratskhelia au mois de décembre, Dembélé qui fait les 6 mois les plus extraordinaires de sa vie. Est-ce qu'il refera un jour? Je n'en sais rien. Tout un tas de choses, d'événements, de moments surprises qui ont été incroyables. Le Barça et le Bayern, je vais pas te dire qu'ils étaient calibrés ou fabriqués pour faire ce qu'ils ont fait, parce que
non, mais on les a vus venir.
C'est extraordinaire. Mais c'était, il y avait les joueurs pour ça. On sentait qu'ils faisaient partie des favoris.
Il y avait moins d'effet de surprise.
Voilà, il y a moins d'effet de surprise. Je trouve que l'histoire, quand même, cette histoire du Paris Saint-Germain là. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est français qu'on l'a vécu différemment? Je n'en sais rien. Ah. Mais en plus, les mecs sont sympas. Les mecs sont attachants.
Ouais, mais c'est vrai.
Les joueurs sont sympas. Tu vois tout ce qu'ils ont réalisé, réussi. Voilà, je trouve qu'il y a plein de petites choses qui me sensibilisent sur cette histoire du Paris Saint-Germain. Après, si je devais être totalement objectif, moi, le grand Barça, ça, c'est quelque chose de tellement magique, parce que le Barça, il y a toute une histoire de club aussi, mais Paris est en train de le rattraper, ça aussi, parce que on parle de l'équipe, on parle des performances, de ce qui se passe sur le terrain, mais un club de football, c'est pas que ça. Et là où Paris a réussi quand même des choses incroyables, c'est de rattraper ces clubs-là au niveau financier, au niveau recettes, au niveau notoriété, au niveau c'est fou ce que ce club est devenu dans son ensemble. C'est devenu un grand club avec une grande équipe, mais parfois l'un ne suit pas l'autre. Et là, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, en termes de notoriété, en termes de tout ce qui se passe, tout a été décuplé, merchandising, tout ce qui va avec. Donc, ce qu'ils ont réussi quand même en très peu de temps, le Paris Saint-Germain, c'est quand même très très fort. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de surprises.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, JPP?
Quand tu parles après les deux, c'est compliqué de trouver les sujets, hein, parce que non, moi je suis d'accord un petit peu. En fait, je suis d'accord avec les deux, parce que c'est une des plus grosses équipes que je pense qu'on ait jamais vue. Après, j'aime pas les comparaisons, parce que les comparaisons, on peut les comparer que sur les titres. Après, bien évidemment, ce qu'a dit Dugas. C'est vrai que c'est cet effet de surprise qui est incroyable, parce que personne ne les attendait à ce niveau, surtout après la première phase de qualif de la Ligue des Champions. Mais par contre, depuis qu'ils ont gagné ça, ils sont sur un nuage, quoi. Ils sont sur un nuage et ils assument. Ils assument, même si hier, pour moi, ils l'ont gagné à l'arrache.
Bah hier, c'est le match le plus dur, peut-être, dans tous les titres.
Ça veut dire qu'ils sont capables même de gagner
les titres, ils sont un peu
à l'arrache.
Et ça,
c'est un vrai plus. il y a la classe, il y a le talent, ça est long, ils l'ont montré, ils l'ont démontré. Et après, après il y a le caractère. Caractère, sur Tottenham, t'es mené, tu regagnes le match à la fin. Hier, t'as un petit sursaut d'orgueil à la fin. T'as deux trois occasions, mais des occasions qui sont pas vraiment très très franches. Mais tu sens que tu retrouves un peu le pari que t'as vu en début d'année. Et puis après t'as Safonov qui fait des miracles dans les buts en étant 4 pénalties sur 5. Franchement, y a rien à dire. Par contre, la comparaison,
après, c'est l'histoire aussi, parce qu'on se souviendra d'autres histoires. Regarde l'histoire de Zidane au Real Madrid. Ça aussi, c'est une histoire que des gens s'en souviendront toute leur vie.
Ah, évidemment.
Le Milan de Sacchi. Alors même s'ils n'ont pas gagné 6 titres,
c'est pour ça qu'on précise sur une saison du gars.
Non, mais oui.
Voilà. Mais en fait, je trouve que
c'est des histoires de foot.
Vous analysez un peu le côté. Impression laissée, je trouve, si je peux me permettre.
Hein, parce non, que moi, Palmarès, moi, ce qui m'impressionne par rapport au PSG, c'est que en une saison, l'équipe, elle s'est construite. Parce qu'au départ, on espérait, mais on savait pas. Et quand on voyait les matchs de Ligue des Champions, on se disait, oulala, c'est pas si évident que ça. Mmh. Et puis l'équipe s'est construite. Des joueurs se sont révélés, notamment Dembélé sur les 6 mois où il a fait. Et après, il n'y a rien à dire.
Pour le coup, ça, Jean-Pierre.
Même Luis Enrique.
Tu peux parler de tout le monde.
Vont répondre aussi bien à ses attentes. Je pense que lui, il sait ce qu'il va mettre en place. Mais après, les joueurs, ils
que l'exécution
aussi
soit si parfaite.
Mais ce qu'on peut lui mettre à son crédit, et pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Pierre, c'est que, bien sûr, qu'il y a eu l'effet de surprise de voir cette machine-là, machine de guerre, se transformer. Formé à partir du mois de mars, là où tu as l'impression que.
Les adversaires que tu as croisés, Jérôme. Tu as croisé que des cadors après. Regarde la Coupe du Monde des clubs, regarde l'Inter, comme tu les as écrasés au final de Ligue 1. On n'avait jamais vu ça, en fait.
Sauf que ça, c'est le mérite de Luis Enrique. Alors après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais peu importe. Mais son travail, depuis qu'il est arrivé, c'est d'avoir fait la bonne analyse. La vérité, c'est que ça faisait 2 ans qu'il était là, quand le PSG a gagné la Ligue des Champions. En 2 ans, il a eu le temps, pour lui, il n'a pas construit cette équipe en une année, parce que la première année, il y a beaucoup de joueurs qui faisaient partie de cet effectif-là. Mais il a corrigé des choses parce que l'analyse a été bonne, parce que le recrutement a été bon et que ces jeunes joueurs-là ont aussi progressé ensemble. Ça, tu peux pas le savoir, mais c'est un paramètre qui peut nous échapper, nous les observateurs, parce que quand t'es pas dans le vestiaire, c'est comme ça. Mais il faut une alchimie entre les joueurs, parce que pour faire ce qu'ils ont fait, il faut que il y ait des bons mecs dans le vestiaire. Mais il y a pas que des bons mecs, il y a des mecs qui ont une forte personnalité, des égos qui sont différents, et que il faut jouer avec ça pour que tout le monde tire dans le même sens. Et la vérité, c'est que Luis Enrique, il a mis tout le monde d'équerre là-dessus. Non, mais c'est vrai.
Non, je rigole parce que le Barça 2009, t'avais Messi, Eto'o, Henry, t'en avais des personnalités.
T'imagines,
Xavi,
t'imagines
des
travail.
Mais
c'est
à gérer, bien
pour,
sûr.
C'est pour ça que le travail de l'entraîneur, c'était Guardiola à l'époque, c'est un travail monumental. Ouais. Après, qu'on aime ou pas les personnages Guardiola, Luis Enrique, mais pour moi c'est des cadors là-dessus, parce que outre ce qu'il nous propose sur le terrain, bien sûr qu'il y a une façon de jouer, et que Luis Enrique c'était pas gagné, parce que rappelle-toi les critiques, et pourquoi il joue comme ça, et pourquoi il change ça, et pourquoi celui-là il joue là et pas lui, pourquoi il le change de position. À l'arrivée, lui il savait exactement ce qu'il voulait, et Guardiola à l'époque, c'est la même chose dans la façon de d'évoluer. Quand Thierry Henry il t'en parle, il te le dit, hein, de toute façon. Donc pour moi c'est les chefs d'orchestre sont hyper importants, et c'est pour ça que ça nous a marqué. Et que Barcelone, là, pour parler comme Duga ou Jean-Pierre, Barcelone, il faut pas oublier ce qui s'est passé avant. Non. Tu vois, et il faut pas oublier aussi, il y a quelques années, même s'ils ont pas gagné autant de compétitions sur une année, mais le Milan d'Arrigo Sacchi, c'est la même chose, tu vois. Donc, c'est des équipes qui, on était plus jeunes, en effet, mais c'est des équipes qui nous ont marqué. Et il faut pas, surtout pas les effacer. Ouais. Et dire le PSG, parce que ça vient d'arriver et on est en France, le PSG, ils écrasent tout ça, c'est mieux que tout le monde. Non, c'est pas mieux, c'est peut-être différent.
Oui, mais d'un autre côté, pas parce que c'est français qu'il faut minimiser les performances.
Mais pas minimiser, mais pour moi, il y a des équipes qui, et on a de la chance, c'est pour ça qu'on aime le football, et que les gamins s'intéressent aussi au football à travers ce genre d'équipe. Ils s'identifient beaucoup. À l'époque, il y a beaucoup de gamins qui s'identifiaient au Milan de Sacchi. Après, il y a eu le Barcelone, en effet. J'ai peut-être oublié des équipes entre.
L'OM de JPP.
Non, ouais,
Le Real aussi, le Real,
exactement, exactement. Donc il y a des équipes comme ça, et c'est pour ça qu'on est passionné de foot et que les gamins sont encore, pour certains, passionnés de football, c'est qu'ils s'identifient à ce genre de clubs et d'équipes. Donc franchement, ce qu'ils ont fait, magnifique. Et hier, en effet, et on l'a dit pendant le commentaire du match, on va pas retenir le match parce que le match était compliqué hier. Ouais. C'était pas le meilleur match du PSG, mais il faut retenir juste le trophée gagné et cet état d'esprit de compétiteur qui a vraiment évolué.
Moi, ce qui me marque peut-être aussi, tu vois, en discutant, c'est qu'on a l'impression qu'en termes de football, on avait un peu tout vu, tu vois, en termes de tactique, d'organisation, en termes de pressing, en termes de 4-4-2, en termes de mecs derrière, et c'est vrai que Luis Enrique, il a réussi aussi à proposer un autre football, quoi. Il a réussi quelque chose de nouveau auquel très très peu de gens s'attendaient. Il a réussi encore à perfectionner ce qui se faisait au Barça et d'inventer encore un nouveau rôle pour notamment les latéraux. Et c'est vrai que ça, quand même, je m'y attendais
pas. Quand tu les vois jouer, Duga, je suis d'accord avec toi, mais quand tu les vois jouer, t'as l'impression de revoir le Barça. Hein. T'as pratiquement, c'est pas les mêmes joueurs.
Ouais, mais
poussé, au milieu, petit gabarit, très bon techniquement.
C'est vrai qu'il y a des points communs, mais
il y a beaucoup de points communs quand même.
Ouais, après il y a un peu plus de dépassement de fonction, ce qu'on appelle dans le comportement des joueurs et le placement des joueurs.
Quand tu es obligé aujourd'hui, Jérôme.
Mais c'est pour ça que c'est tout au mérite et Duga a raison et que ça vienne de lui, c'est encore plus beau. Tu vois, moi j'ai même pas envie de rebondir là-dessus, mais de dire que dans le circuit, dans le déplacement des joueurs, voir ce qu'il a réussi à mettre dans le cerveau d'un Nuno Mendes, d'un Hakimi. Nuno Mendes, on l'a fait l'année dernière en interview dans Rotten sans flamme. Exactement. Il nous expliquait ça, son changement lui aussi. Tu vois, l'année dernière, qu'est-ce qu'on n'a pas dit en début de saison? On disait, mais Nuno Mendes, il est bridé. Il est bridé. Hakimi, lui, il y va et lui, il doit être derrière. Mais en fait, il t'expliquait que non, qu'il fallait qu'il réfléchisse aussi au premier déplacement l'équilibre. Quand il y avait le ballon, l'équilibre. Exactement. Et dans un premier temps, il se rassurait défensivement pour après se lâcher. T'as vu ce que ça a donné. Ouais. Mais t'as raison, Duga et Jean-Pierre, de parler aussi du milieu de terrain. Parce que dans l'effet de surprise, ça a été aussi ça, de voir Vitinha stratosphérique, qui était très bon déjà, mais stratosphérique comme il l'a fait et qu'il continue. Joao Neves à côté, un jeune joueur qui s'éclate, Ruiz, que tout le monde voulait, et moi le premier, j'assume, l'année dernière, en début de saison, dire ah, putain, mais il ralentit le jeu, on en a marre de Ruiz et tout ça, purée, pardon. Et puis à l'arrivée, quand tu vois que la complicité des trois, mais c'est fabuleux.
Arnaud, 32-16, supporter parisien, Jérôme.
Salut Arnaud.
Bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Jérôme, bonsoir toute l'équipe.
Bonsoir.
Merci de me prendre à l'antenne.
Bah non, c'est un plaisir Arnaud. Bon, écoute, j'imagine que tu as savouré les trophées gagnés par le PSG. En tant que supporter du PSG, j'imagine que tu le places tout là-haut, ce club aujourd'hui.
Je suis plus de ton avis Jérôme, j'ai écouté ce que tu disais il y a quelques minutes. Moi je mets le Barça de Guardiola devant quand même.
Et pourquoi alors?
Par rapport, c'est pas très objectif aussi, mais c'est que j'aime beaucoup le jeu de possession. Je sais qu'il y a des gens qui sont moins fans de ce style de jeu. Le PSG de cette année, il ressemble un peu au Barça de Guardiola, mais avec un jeu un peu plus direct.
C'est vrai.
Mais j'aimais vraiment beaucoup voir jouer cette équipe avec Iniesta, Messi, Samuel Eto'o. C'était vraiment. Enfin, je trouve que dans le jeu, ils étaient un poil au-dessus quand même. Un poil au-dessus dans
C'est vrai que
la plus grosse différence, c'est peut-être dans le pressing. Le pressing aujourd'hui, quand t'as 11 Parisiens qui se sont à la gorge.
C'est ça.
Du Barça, il le faisait pas, mais s'il le faisait pas.
Christophe, excuse-moi.
Il le faisait un peu, mais pas autant. Ouais, pas autant de joueurs.
Vas-y, Arnaud, vas-y.
Tu vois?
Oui, parce que c'était il y a 15 ans, Christophe, mais il me semble que Guardiola, à l'époque, avait déjà un précepte de vouloir récupérer absolument le ballon en 5 ou 6 secondes.
Mais ça c'est vrai. Mais là où Duga a raison, Arnaud, c'est que tu peux pas, quand tu prends le meilleur joueur de l'époque. Alors il y en avait beaucoup, hein, attention. Mais si tu ressors Messi à Barcelone, tu ressors Dembélé au PSG. Et tu vois juste la concentration et les efforts que faisaient les deux à la perte de la balle. Vous avez vu Dembélé l'année dernière, on était le premier à le dire.
C'est pas les mêmes joueurs.
Non. Mais peu importe, ça veut dire que vraiment c'était à outrance, à la perte de la balle, le premier déclencheur du pressing, c'était Dembélé. Messi, tu pouvais pas faire ça.
Ouais, voilà.
Avec Messi, Messi le faisait plus, un petit peu, beaucoup plus que 10 ans après ou 15 ans après, ou quand tu vois le Messi du PSG. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais quand même, il y avait un petit effort, mais pas autant que les Parisiens.
Merci Arnaud qui est venu au 32-16. Et on continue de parler du Paris Saint-Germain dans un instant avec ce procès, donc, évidemment, lié à cette victoire en finale de la Coupe Intercontinentale, cette séance de tirs au but complètement folle. On va faire le procès de tous ceux qui pensent que Matvei Safonov.
Et hier, c'était le même, non ?
A relancé la concurrence avec.
Et demain, on en fera. Tu fais une autre formule sur Safonov.
Il y a une petite différence entre avant-hier et hier, non ?
Ouais, mais hier, on a déjà fait.
Non, avant-hier.
Ah, c'était avant-hier ?
Eh oui. Ouais. Et puisque là, il s'est passé un truc. Safonov, il a fait un bon match. Peut-être un peu, non ? Bon, on en parle dans un instant.
Le match, il n'a pas trop touché le ballon. La séance de tir au but, oui.
C'est grâce à lui que tu as gagné un sixième titre cette année. Tu peux lui dire merci. Merci, Matvei. Non ?
Bah, ouais. Lui et les autres.
Allez, à tout de suite sur RMC. On en débat dans un instant.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h28 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. La deuxième demi-heure de Roten sans flamme, c'est maintenant avec Christophe Dugarry, avec Jean-Pierre Papin, avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, soyez là, parce qu'on reçoit un ancien coéquipier de Bastia, un super joueur et qui continue et qui donne encore aux plus jeunes. Donc Claudio Beauvue sera là dans 15 minutes.
Et on peut l'accueillir maintenant, il est avec nous.
Il est là, voilà, il est en plateau.
Salut Claudio, ça va? Bonsoir, oui, ça va.
Ravi de te retrouver.
Ouais, ça va. Bah ouais, super.
T'as le sourire.
Merci de m'accueillir. Plaisir.
C'est toujours un plaisir de t'accueillir, de te revoir après
des années.
Ça fait quoi? Ça fait 10 ans, ouais, ça fait 10 ans à peu près, un peu plus. Ouais. 10, 12 ans.
C'est ça. Beauvue, grande carrière en
Suisse. Mais t'as pas vieilli, toi.
Mais bon.
Non, il n'y a pas vieilli. Jean-Pierre, je te jure, il est à côté de
moi. Des deux, là, en face de moi, celui qui a le plus vieilli, c'est le présentateur. On est gros mots. Claudio, il a le même physique que quand il était joueur.
Tu passeras pas les fêtes.
Claudio, merci d'être là. Tu es joueur aujourd'hui de l'AS Gosier en Guadeloupe et tu vas affronter Lorient en Coupe de France samedi. Tu vas tout nous dire dans un quart d'heure à 18h45. Mais on va profiter de ta présence.
Tu vas retrouver un ancien coéquipier aussi, Cahuzac.
Oui, exactement. Tu vas nous rendre service parce que tu vas participer au procès qu'on va lancer. Tu rendras le verdict dans ce procès qui démarre tout de suite.
RMC, Roten sans flamme.
Pour moi, c'est magnifique, mais je pense que à ce moment, je n'ai pas compris toutes mes émotions, parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est premièrement grand finale à mon carrière. J'ai laissé beaucoup d'émotions, et pour moi, c'est incroyable.
Le procès de Roten sans flamme.
Vous venez d'entendre Matvei Safonov, le gardien russe du Paris Saint-Germain, qui parle parfaitement le français et qui a été le héros de cette finale de Coupe Intercontinentale hier. 4 arrêts lors de la séance de tir au but face à Flamengo. Le 4e match consécutif qu'il dispute, il était dans le but parisien. Un choix sportif de Luis Enrique hier, parce que Lucas Chevalier était disponible. Cette prestation a été saluée par tout le monde, y compris Nasser Al Khelaifi, le président du PSG. La question de la concurrence peut se poser désormais. Safonov, 26 ans, très professionnel, très apprécié en interne. Vous avez toutes les infos sur rmcsport.fr. Rappelons que Chevalier, lui, vit un début de saison un peu délicat, mais il a été recruté à prix d'or l'été dernier, 55 millions d'euros. Luis Enrique n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet hier soir. Il a vécu la question. Il a dit, ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais nous, on va le faire.
Safonov, c'est plus de 20 millions, hein, quand même, l'année d'avant.
Eh oui, il avait été acheté.
Oui, non, mais parce que j'ai l'impression que il a été acheté de Francis Sous.
Personne n'a dit ça.
Non, mais écoute, si, mais dans ta présentation. C'est un peu ça.
Le procès de tous ceux qui pensent que Safonov a relancé la concurrence au poste de gardien avec Lucas Chevalier. Le procureur ce soir, c'est monsieur Christophe Dugarry. Bonsoir.
Bonsoir.
Les avocats de cette prise de position sont donc Maître Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Papin, bonsoir.
Bonsoir.
Et on a donc Claudio Beauvue qui va rendre son verdict dans un instant.
Qui me fera gagner.
Tu écoutes les plaidoiries et tu dis qui t'a convaincu, ok Claudio?
Il n'a pas le choix de me faire gagner.
Allez, allons-y.
Dugas, il va perdre contre Lorient.
Dugas, pour toi, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de concurrence entre Safonov et Chevalier.
Bah non, il ne faut pas qu'il y en ait.
Pour moi, il n'y en a pas, il ne faut pas qu'il y en ait. Je pense que qu'en faisant signer Chevalier, ils l'ont pas fait signer pour 4 mois. On savait que chez ce garçon, il y avait une énorme marge de progression. Quand Luis Enrique a pris Chevalier, il n'a pas pris parce qu'il était au niveau de Donnarumma. Il a pris parce qu'il pensait qu'il pouvait apporter quelque chose de différent que Donnarumma, notamment au niveau du jeu au pied, et qu'ensuite, il pourrait être aussi fort un jour avec la progression, avec le travail, avec les consignes de ses coachs, avec beaucoup de travail collectif aussi, jouer au niveau de Donnarumma. Donc aujourd'hui, couper les ailes de Chevalier parce que Safonov a arrêté 4 pénaltys, a fait une bonne rentrée, a montré que c'était un gardien de qualité, je trouve ça totalement prématuré. Après qu'il y ait une concurrence entre les deux qui s'installe pour pouvoir justement tirer l'un et l'autre vers le haut, moi, ça me choque pas plus que ça. Mais je trouve que Chevalier, aujourd'hui, a mérité de continuer à être le numéro un, qu'on prenne son temps, qu'on soit patient avec lui, parce que je pense que sincèrement, si tu mets aujourd'hui, tu changes cette hiérarchie-là, tu vas peut-être plomber les deux. Parce que Safonov, il a montré que c'était un très bon gardien, on n'en doutait pas, ils l'ont pas eu gratuit, comme l'a dit Jérôme, ils l'ont pas eu gratuit, ils l'ont payé 20 millions d'euros, on savait que c'était un bon gardien. Après, j'ai toujours pensé malgré tout, et je pense que les dirigeants l'ont toujours pensé aussi, autrement ils auraient pris Safonov en numéro 1, que Chevalier a le potentiel pour être parmi les plus grands gardiens du monde. Aujourd'hui, il ne l'est pas, c'est certain. Mais est-ce que vous êtes sûr que Safonov, les 3 prochains matchs, il va pas se trouver aussi, et il va pas faire des boulettes? On n'en sait rien non plus. Il y a aucune garantie de la part de Safonov que ce soit non plus Donnarumma. Donc à un moment ou un autre, Safonov a montré que c'était un gardien de bon niveau, de très bon niveau, et ça tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ils ont la certitude de quoi? Ils ont la certitude qu'ils ont 2 très bons gardiens. C'est quand même ça le plus important. Pourquoi? Parce qu'il y en a. Et alors, c'est-à-dire que si Chevalier, il revient, il fait 2 bons matchs, on va dire, ah ben Chevalier, il a repris sa place, il a montré à Safonov qu'il était plus fort. Mais tu vas pas faire une saison, à chaque fois qu'il y en a un qui fait une performance, à dire, oui, mais il est plus fort que l'autre, il est plus fort que lui, il a montré que c'était le meilleur. Non, un gardien, c'est pas ça, c'est un poste particulier. Je pense que Chevalier, tu dois en plus, Chevalier, il t'a fait perdre aucun match, il t'a fait perdre aucun titre.
Ah, il a fait quelques erreurs, effectivement, mais
on le savait.
Il a fait perdre le match à Marseille.
Ouais. Chevalier, il a tout à démontrer. C'est un jeune talentueux, mais il n'est pas international.
C'est pas n'importe
quel
match.
Il n'a pas encore les épaules.
Ça y est, il est international. Il a pris un but.
Mais il joue pas. C'est pas le gardien de l'équipe de France. Non, mais c'est pas le gardien de l'équipe de France non plus. Aujourd'hui, il a tout à prouver. Il est en train de le faire, étape par étape. Mais je trouve que ça serait la pire des situations que de lui mettre des bâtons dans les roues et de lui mettre Safonov comme ça dans la concurrence.
Parole à la défense, Maître Rotem.
Déjà, la réponse concurrence ou pas, c'est le cas. Sinon, Safonov, il n'aurait pas enchaîné les matchs. Alors, il a profité de la blessure de Chevalier à Monaco, cet attentat là qu'a subi Chevalier, pour jouer les 2 matchs de championnat qui ont suivi. Le premier, je vous l'avais dit, et même la Ligue des Champions, le premier, je vous l'avais dit que, en effet, il ne pouvait pas jouer. Le deuxième, il pouvait jouer, mais il se posait des questions. Et je pense que, en se posant un peu trop de questions, en effet, il a donné l'opportunité à Safonov de montrer qu'il avait aussi du talent, le Russe. On reste sur l'image de l'année dernière, je me souviens, au Bayern, où là aussi, c'était un petit peu à la méritocratie, le management des gardiens de Luis Enrique. L'année dernière, on se rappelle que le début de saison, Donnarumma, il est quand même hésitant par moment, comme la plupart des joueurs, qu'il n'est pas décisif quand il doit être décisif. Pour preuve, c'est que le PSG manquait cruellement d'efficacité dans la zone offensive, mais dès qu'il y avait une occasion de l'équipe adverse, il y avait but. Alors qu'il soit responsable ou pas, mais il n'était pas décisif.
Il y avait eu l'Atlético comme ça. Il a perdu 1-0.
Exactement. On était au parc et je me souviens très bien. Et il y en a eu d'autres aussi. Et puis après, il y a eu ce match donc au Bayern l'année dernière où, à la grande surprise, il met Safonov. Safonov se trouve comme Donnarumma aurait pu le faire, c'est-à-dire la sortie, on se souvient, sur corner, ils prennent le but, ils perdent 1-0. Bon, allez, vite, c'est réglé. De là, Donnarumma, il a repris sa place, il a rejoué. Et Donnarumma est devenu indéboulonnable. La vérité, c'est ça, c'est qu'il a enchaîné tellement des bonnes perfs que tu pouvais plus le bouger. Et que Safonov, il a rongé son frein. Il a joué les matchs de Coupe de France, et on l'a dit hier, et je l'ai dit, il a quand même gagné la Coupe de France en étant décisif aussi. Alors, c'était pas des matchs couperets, des matchs très compliqués pour le PSG, mais n'empêche qu'il a au moins le mérite de gagner un trophée.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, alors?
Et aujourd'hui, en fait, le statut en début d'année, quand tu prends Chevalier à plus de 50 millions, bien sûr que c'est pour le mettre planète numéro 1. On est pas débiles. On sait très bien, ils l'ont acheté 50 millions, Safonov 20 millions. Safonov était la doublure de Donnarumma. Donc ils mettent Chevalier. Le problème, c'est que je pense qu'ils s'attendaient pas, en effet, qu'il y ait un temps d'adaptation qui soit long comme ça pour Chevalier, où en effet, il a pas été décisif, il a fait quelques conneries, que Luis Enrique l'a toujours protégé en termes médiatiquement dans sa communication, en disant moi j'ai pas de doute, je suis content de ce qu'il fait et tout ça, mais au fond de lui, il n'était pas si satisfait que ça. Là, pour preuve, c'est qu'aujourd'hui Safonov, il a profité de la blessure, il a enchaîné les bonnes perfs. Hier, il te fait une perf XXL et encore plus. Même un gardien en Europe n'avait pas réussi à faire ça, sortir 4 pénalties sur 5. Ouais. Donc aujourd'hui, il dégage beaucoup plus d'assurance que Chevalier, c'est la réalité. Donc pour moi, à court terme, en effet, dans la hiérarchie, et je l'ai dit avant le match, il a repris du crédit. La hiérarchie, elle a un peu évolué, mais ça veut pas dire pour autant que Chevalier, il est mort. Chevalier, il est pas mort. Chevalier,
non, toi, il y a une concurrence, mais Chevalier,
la concurrence a toujours existé. Mais aujourd'hui, c'est très simple. Un gardien indéboulonnable comme Donnarumma. L'année dernière, il y avait la concurrence pareille, sauf que Donnarumma a été incroyable, indiscutable sur les 6 derniers mois. Ouais. On pouvait pas, on parlait plus de est-ce que c'est Safonov, est-ce que c'est Donnarumma, contrairement aux autres années. On est d'accord là-dessus. Ouais. Donc là, pour l'instant, il y a ça parce que Chevalier n'est pas indispensable, en effet, et que Safonov a été bon. Moi, je dis juste que si Safonov, et je pense qu'il va continuer à jouer dans un premier temps, Safonov continue à enchaîner des bonnes perfs, comment tu veux expliquer à Safonov qu'il a reperdu sa place par rapport à un Chevalier qui est hésitant ? Donc oui, aujourd'hui, à court terme, alors, Safonov est passé devant Chevalier, mais pour autant, dans la stratégie du club et dans la progression de Chevalier, tu verras qu'à un moment donné, Chevalier reprendra la place dans le but et ça sera à lui de montrer une progression.
Jean-Pierre, quel est ton avis là-dessus, toi ?
Moi, je pense que Safonov a remis les clés de la concurrence au goût du jour, parce que je pense que depuis quelques matchs quand même, il est bien meilleur. Il s'est affirmé. Il a fait des matchs où il a quand même sorti des parades assez incroyables. Je pense que sur ce match d'hier, aujourd'hui, tu peux pas lui dire demain tu reprends ta place sur le banc. Quoique on l'a déjà vu. Mais moi, je pense que aujourd'hui, je pense qu'il faut lui laisser encore une chance de montrer que. Après, peut-être que Chevalier aussi a des clauses dans son contrat qui lui disent qu'il est numéro un. Même si j'ai un doute, mais bon, sait-on jamais.
Ça, c'est pas sûr.
Mais bon.
Tu ferais quoi en tant qu'entraîneur, toi, alors ?
Alors, je sais que les deux qui sont. Enfin, Jérôme, il est avec moi parce qu'on est dans la même équipe aujourd'hui. Donc, ça se fait pas, ce que je vais dire. Mais peut-être à un moment, avoir un management où t'essayes de faire jouer les deux un peu plus souvent.
Donc, tu fais une alternance entre les gardiens. Ça peut être une solution.
Je sais que c'est compliqué, je sais que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais quand t'as la chance d'avoir deux très grands gardiens, pourquoi
t'en priver ? Ça marche jamais, ça, Jean-Pierre, ça marche jamais, ça.
Je sais, mais je viens de te dire. Je sais, mais voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Ça, voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, Safonov est au niveau, et voilà.
Claudio Beauvue va nous rendre son verdict.
Moi, perso, je rejoins Jérôme et.
Aïe. Ah bah non, mais ils n'ont pas le même avis.
Bah si.
C'est soit la team Dugas, soit la team Jérôme.
Oui, mais vous rejoignez beaucoup au final sur la conclusion. Donc voilà, Chevalier aujourd'hui, j'adore ce gardien en plus. Mmh. Il y a un temps d'adaptation. Il vient d'arriver dans un très grand club, un club qui vient de remporter la Ligue des Champions. Il a évidemment la pression, c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est un autre football.
Ouais.
Il faut qu'il s'adapte. Qui s'adapte comme le gardien russe là qui s'est adapté aussi, il arrivait quand
l'année dernière
quand il a remplacé aussi, il n'était pas
il a fait quelques boulettes,
très friable, donc voilà, il faut laisser cette confiance à Chevalier et petit à petit lui redonner sa chance, lui redonner ses matchs, mais lui donner cette confiance que c'est lui le numéro 1.
Voilà, donc c'est plutôt Dugas, alors, si je comprends bien, le numéro 1, ça reste
mais après c'est vrai qu'on se rejoint avec Dugas pour l'instant.
Non, mais c'est pas parce que c'est ton pote,
non, mais c'est vrai, mais c'est c'est vrai que à l'arrivée, à court terme, je pense que Safonov va continuer à jouer et comme ça, ça permettra peut-être à Chevalier de dégager cette pression négative. Et voilà. Puis au bout d'un moment, il sentira. Mais ça, c'est le management de Luis Enrique et je pense qu'il sentira le coup de remettre. Mais moi, je vous le dis, hein, je vous le signe. Ah, tu verras qu'au mois de février, quand le PSG sera en 16e ou en 8e, j'espère, directement en 8e de Ligue des Champions, tu verras que Chevalier sera dans les buts.
Et bravo à Christophe Dugarry qui a réussi à convaincre Claudio Beauvu alors que c'est le pote de Jérôme Bretagne. Ça, c'est fort. Bravo Dugarry. C'est une belle victoire dans un procès quand même. Celle-là, elle sera marquante.
Ouais.
Allez, dans un instant, allô Jérôme, justement, mais à l'honneur Claudio et cette belle équipe de l'AS Gosier demain.
L'AS Gosier.
Samedi, c'est la Coupe
il
de France
dit,
à Bondoufle.
On a de grandes chances de gagner demain.
Ouais. Non, à Lorient, club de Ligue 1. L'AS Gosier, sans
il a dit, il voit aucune qualité à Lorient.
Voilà, on vous raconte tout dans un instant. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h45 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit la première avec le Allo Jérôme et Claudio Beauvu qui est là et qui va nous expliquer tout ce qui va se passer demain avec samedi, le match de Coupe de France à AS Gosier contre Lorient. On est avec Christophe Dugarry, avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron. Et après 19h.
Ah, un grand débat. Roten se chauffe. Roten va se chauffer.
Oui.
Parce qu'on posera la question. Reverra-t-on un jour le grand Ousmane Dembélé 32-16 pour participer avec
la boule de cristal, elle est où?
Elle est tout de suite à l'eau, Jérôme. Elle sera à tout à l'heure.
RMC, Roten sans flamme.
Il faut qu'Obadi soit à l'entrée de la surface.
Ouais, allez, Obadi, voilà, il est interrogé.
Oui! Oui, la tête! La tête au premier poteau de Claudio Beauvu qui sauve les meubles sur ce corner de Nanik. Le stade s'est tu.
Allô, Jérôme.
Premier but de Claudio. Claudio, tu te souviens?
Ah ouais, je m'en souviens, c'était contre Dijon.
Et ben voilà. Grande carrière, Claudio Beauvu. On est ravis de te recevoir. C'est un grand week-end de Coupe de France à vivre sur RMC, les 32e de finale. L'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Quelques petits poussés, dont fait partie l'AS Gosier, club de Régional 1 en Guadeloupe. Tu es parti rentrer comme ça sur ton île cet été, en famille, et tu as signé à l'AS Gosier. Magnifique histoire. C'est la première fois que l'AS Gosier atteint ce niveau de la compétition. Vous allez affronter Lorient, donc samedi en Coupe de France. Et vous vous entraînez depuis quelques jours à Clairefontaine. Le choc thermique est difficile pour certains, c'est ce que tu nous disais.
Oui, depuis mardi matin, voilà, il y en a certains, c'est la première fois qu'ils rentrent en France. Et donc là, je peux vous dire qu'ils ont très froid, ils ont très froid depuis notre arrivée. Mais après, on est très bien à Clairefontaine. Voilà, on est dans de très bonnes conditions. Ouais. On s'entraîne comme on veut avec toutes les installations qui sont à notre disposition et ça nous permet tranquillement de préparer ce match.
Vous êtes où dans le château?
Non,
vous êtes dans les annexes.
Non, pas dans le château. Ouais, on est dans les annexes.
D'accord.
Non, dans le château.
Ils auraient pu. Il y a personne à cette période.
Non, ils laissent pas.
Non.
Pas comme ça. On va le visiter par contre demain.
Ah, magnifique. D'accord.
Demain, on peut le visiter. Bon.
Vous verrez la chambre Jérôme Bretagne, la chambre Christophe Dugarry et la chambre Jean-Pierre Papin.
Ouais.
Les trois. Quel est le profil de tes partenaires? Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui veulent percer et aller plus haut dans le foot français. Est-ce qu'il y a quelques anciens pros comme toi qui terminent comme ça et qui rentrent en Guadeloupe?
Il y a Michael Alphonse.
Ouais, Michael Alphonse qui a été
que j'ai réussi à convaincre carré. Parce que lui il voulait pas repartir. Donc je lui ai dit allez faire une pige avec moi. Il y a Richard Saucrier, tiens.
Ah d'accord.
Richard,
c'est pas vrai.
Aussi. Ouais.
Okay.
Richard qui a repris une licence.
Mais quel âge il a, Richard aussi?
Ouais, je sais pas.
Mais il y a pas d'âge.
Il est toujours aussi jeune.
Non mais c'est dingue.
Son visage, c'est incroyable. Et après oui, on a des profils de joueurs, un jeune joueur comme Boboche, Willan. Qui est un excentré, qui est assez rapide et qui a 19 ans, qui a un profil pour un club peut-être de National 2, voire National 3, à voir. Et sinon, c'est des anciens. Cette année, on a recruté beaucoup de joueurs confirmés en Guadeloupe pour essayer de justement arriver le plus loin possible dans cette compétition et les autres compétitions qu'on a aussi au pays.
Ça doit être génial pour toi de vivre cette expérience-là, de faire donc le meilleur parcours de l'histoire du club. La première année, tu reviens, vivre ces émotions-là. J'imagine que tu t'attendais pas à ça quand tu as signé.
Non, du tout. Hein, franchement, avant de rentrer en Guadeloupe, j'ai vécu deux saisons au RC Calais.
Ouais.
Pareil, on était en R1, on a réussi à jouer Caen la première année à ce stade de la compétition, puis la suivante face à Strasbourg.
Tu voulais te faire mal en signant à Calais avant de repartir en Guadeloupe ou...
Tu voulais du froid avant de rentrer ouais. Et de la pluie.
Ouais, je te jure. Non, mais c'est que je quitte l'Espagne et j'étais au déport, donc après je signe à Boulogne-sur-Mer. Mm. Et après Boulogne, voilà, il y a eu.
Ah ouais, t'as fait que les belles régions, là.
Non, franchement, en revenant d'Espagne, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais là? Ouais, c'est vrai que là, je me sentais comme mes coéquipiers.
Ouais, compliqué.
La Coupe de France, c'est particulier pour toi, parce que c'est peut-être la plus belle ligne de ton palmarès. Tu l'as gagné avec Guingamp en 2014. Du coup, tu transmets ça à tes coéquipiers, l'importance de la Coupe, gérer ces matchs de Coupe.
Depuis le début, je leur dis que voilà, la Coupe de France, il faut surtout pas se prendre la tête et le prendre aussi à la légère.
Ouais.
C'est des matchs où il y a une magie extraordinaire. Tu peux jouer contre Lorient samedi, l'équipe de Ligue 1 et remporter ce match. Il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire, il faut se donner les moyens et rêver surtout.
Mais c'est ce qui fait le charme du foot et toi, t'as un rôle essentiel avec les deux, trois anciens aussi que tu as cités, qui ont aussi fait des bons parcours en Coupe de France, pas comme toi, mais l'expérience aussi du professionnel qu'on était joueur là avec les clubs professionnels et qu'on jouait des équipes amateurs, c'était un calvaire par moment.
L'année où on la remporte avec Guingamp, on joue Concarneau.
Concarneau,
on était mené, je crois, à la 85e, un truc comme ça, et j'égalise à la 90e, et après, on fait la différence.
Mais gagner,
cette année-là, tu vois, tu peux être éliminé et ne pas faire un parcours comme on l'a fait avec Guingamp. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours y croire. Et on avait un groupe très humble à Guingamp, et c'est ce qui nous a permis de faire la victoire en 2014, et puis la demi-finale l'année d'après.
Claudio, est-ce que
Jérôme, aujourd'hui, c'est 90 minutes. C'est plus comme avant.
Oui, en plus, t'as plus les prolongations.
90 minutes, c'est pas la même chose. Hein.
C'est sûr que dans la gestion, c'est différent. Même le club pro, par moment, il peut avoir une pression particulière si tu gardes le
résultat. Nous, en tant que favoris, justement, en Guadeloupe, pour revenir à notre île, les équipes, c'était ça. Hein. Ils essayaient de nous tenir. Jusqu'à la vie, on est passé deux fois comme ça.
Et oui. Non, moi, la question, c'est pour ton avenir. Alors, bon, tu vas continuer à jouer encore quelques années ou tu t'es dit, non, bon, écoute, je fais une pige et puis l'année prochaine, on verra. Est-ce que dans un second temps, tu as envie de rester dans le foot et pourquoi pas être entraîneur je sais pas, le rôle que tu as là dans à l'AS Gosier, ton entraîneur, tu échanges beaucoup avec lui?
Oui, j'échange beaucoup avec lui. On essaye d'apporter son expérience aussi parce que c'est un ancien professionnel aussi. Au niveau, il a joué Ligue 2, il a connu quand même le monde professionnel. Donc on essaie d'échanger beaucoup et ensuite avec les dirigeants du club, surtout sur la formation, apporter mon expérience là-dessus, les guider sur certaines choses. C'est très important. Après, on a beaucoup de problématiques aussi au pays. Il manque pas mal d'infrastructures. D'abord,
les moyens, c'est
compliqué. Hein. Nous, pour vous dire, on n'a pas de local. C'est compliqué. Donc, on fait avec les moyens du bord. C'est le stade de la ville où on s'entraîne. Mm-hmm. Mais il y a quatre équipes dans cette ville. Donc, pour trouver des créneaux pour s'entraîner.
Ah oui, c'est pas facile. Ouais.
C'est pas facile. Mm-hmm. Donc voilà. À la suite de ça, j'essaierai dans les années à venir, de m'introduire un peu plus dans le football guadeloupéen.
Est-ce que tu as envie de les accompagner, ces jeunes guadeloupéens, avec du talent, de les aider comme ça à venir en métropole et à trouver les centres de formation?
C'est le but de mon retour aussi au pays. Non seulement de me rapprocher de ma famille, mais aussi de donner tout ce que j'ai pu connaître en Europe et surtout en France à mon île. Donc ce sera trouver les bons partenariats et les bonnes connexions avec les gens qui ont envie vraiment d'aider ces jeunes Guadeloupéens et demain j'espère y contribuer.
J'ai une question moi quand même. Est-ce que t'as toujours cette détente légendaire? Parce que Claudio Beauvu, c'est surtout ça. C'est une détente incroyable. Non mais c'est fou.
Ouais, ça va.
Ça saute toujours aussi haut.
On travaille pour.
Ton rôle a évolué. Tu joues neuf toujours
Toujours neuf. Après, j'aime bien comme Jérôme revenir un peu toucher le ballon. J'ai pas son pied gauche.
Il a pas ton jeu de tête.
Ça c'est clair que j'avais pas le jeu de tête. Et c'était plus facile de jouer avec des joueurs comme ça parce que tu peux te tromper aussi sur.
Comme ils sautent haut.
C'est d'une galette, mais ils sont très hauts.
Comment tu l'appréhendes ce match face à Lorient? Tu te dis, il faut surtout serrer le jeu, bien défendre, et après on verra ce qui se passe. Vous y allez avec un peu d'ambition, vous visez les tirs au but.
C'est la gestion émotionnelle. Il y a eu pas mal d'effervescence autour de nous. Donc maintenant, ce sera bien gérer cette partie-là avec les gars et essayer de jouer notre jeu. Voilà, être solidaire sur le terrain, ça va être très compliqué, très compliqué. Mais la Coupe de France, c'est la magie. Donc on ne sait jamais. Si on arrive à être solidaire entre nous et à garder le plus longtemps possible le score vierge ou voire à égalité, ça nous donnera le plus de chances pour passer.
Claudio, le niveau, moi j'ai une question sur le niveau de la R1 là-bas en Guadeloupe. Je connaissais la R1 à la Martinique parce que j'ai des anciens joueurs là-bas. Ils ne sont plus joueurs aujourd'hui parce qu'ils ont mon âge, mais qui ont été formés aussi en France et qui sont repartis là-bas en Martinique. Et ils me disaient que le niveau de la R1 n'était pas forcément le même niveau que la R1 en région parisienne. Est-ce que en Guadeloupe ça se rapproche?
Guadeloupe et
La R1 en Guadeloupe et la R1 en région parisienne.
Ouais, c'est vrai que on a.
Il y a un écart.
Ouais,
quand même.
Il y a un écart quand même. Après, ça se rapproche plus où j'ai joué à Calais.
D'accord.
Par rapport à la région du Nord.
Ouais.
Donc, mais à Paris.
Paris, c'est solide.
Ouais, c'est solide. Ouais. Moi, j'ai joué en N3 justement à Ivry.
Ouais,
ça valait une N2.
Ah bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, j'ai entraîné une R1
au plaisir romain. Est-ce que t'as ce regret qu'on dénonce systématiquement de ne pas pouvoir accueillir une Ligue 1 en Guadeloupe?
Oui, c'est vrai que c'est dommage pour notre public. C'est dommage de pas recevoir des professionnels et même pour les enfants. Quand il y a les gamins, déjà ils regardent tout le temps le football.
Mais comment tu l'expliques ça?
Surtout qu'il n'y a plus d'excuses de calendrier, parce que regarde les Ligue 1 là, c'est la trêve.
Déjà il n'y a plus d'excuses de calendrier. Les infrastructures, bon, on t'en parlait, mais bon, vous avez quand même un stade qui est capable d'accueillir.
On a reçu une N3.
Bah oui, et puis surtout moi, j'ai fait partie aussi de la seule fois où l'équipe de France est venue jouer aux Antilles, en Martinique. C'était en 2005, au stade à Fort-de-France. Et l'équipe de France, quand elle va là-bas, en termes de sécurité, tout était nickel. Donc, comme quoi, tu peux te donner les moyens d'organiser un match de Coupe de France.
Qu'est-ce qui empêchait Lorient de se déplacer en Guadeloupe sur ce week-end-là?
Je pense pas Lorient spécialement, mais je pense ces critères-là à ce niveau-là. Le club guadeloupéen, il doit se déplacer en France. C'est dommage. C'est dommage parce que tous les gamins et moi, rencontrer des professionnels, les rapprocher, les toucher, voir. Ça donne un peu d'espoir. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu la chance.
Ouais, des exemples, de toute façon. Ouais,
moi, j'étais à Monaco, dans un tournoi, un tournoi à Monaco.
Et c'est là derrière, que j'ai rencontré, tu t'es fait repérer.
Derrière, je me suis fait repérer. C'est là que j'ai rencontré Thierry Henry et je suis revenu au pays. Et c'est quand t'as vu des jeunes comme ça, ça t'a donné cet espoir de devenir comme un jour.
Tu parlais de ta carrière le début. Moi, c'est plus sur l'ensemble. Maintenant, t'es plus à l'heure du bilan sur ta carrière. Est-ce que t'as des regrets sur ta carrière? Moi, on a joué à Bastia ensemble. Moi, je te trouvais avec beaucoup, beaucoup de qualité, vraiment. Est-ce que, tu te dis pas, tiens, si j'avais fait ça, ça aurait été mieux, ou tu es comme très souvent on le dit, déjà faire une carrière c'est incroyable et il n'y a pas de regret?
Pas vraiment de regret. Le seul regret que j'ai, c'est mon opération au tendon d'Achille. C'est ce qui m'a freiné pendant 5 ans. Quand je suis revenu à Boulogne, justement, j'ai eu une inflammation avec des germes de staphylocoque au niveau du tendon. Et le doc m'a dit justement, comment t'as fait pour jouer 5 ans comme ça? Et je venais de signer au Celta Vigo quand je quittais Lyon.
Ah oui, d'accord.
Et j'avais déjà eu des problèmes de tendinite à Guingamp. Et l'année de Lyon, je voulais me faire opérer, mais on attendait la fin. Et bon, après, je suis.
Et Lyon, c'est pas un regret? Comment ça s'est passé?
Bon, pas forcément. Les gens, ils savent pas, mais.
Non, mais.
Avec monsieur Aulas, ça se passait très bien. Il voulait me garder. C'est moi qui voulais partir.
Ah bah d'accord.
Pour mes raisons.
Bon.
Que je dirais pas ici.
Non, ça te regarde.
C'est comme ça. Mais aucun regret de Lyon, ça s'est bien passé, j'ai encore des amis mais vraiment c'est cette blessure qui m'a traîné, et je pensais, tu vois, un peu comme Thomas Neymar.
Aujourd'hui
qui a du mal à revenir.
Oui,
exactement.
Oui.
Et moi je pensais pendant cette année-là, quand je suis revenu au Celta, quand on fait justement la demi-finale face à Manchester, je pensais être bien revenu et tout, mais au fur et à mesure, tu descends au niveau de ton standing et tu te dis bon bah, c'est à cause de la blessure.
Ça doit être dur à vivre. Hein.
Ouais. Franchement, ouais. Enfin, franchement, écoute, c'était horrible.
Merci Claudio Bobu, merci beaucoup. Dans Rotten sans flamme.
Merci à toi.
Bon courage.
Merci à vous.
Samedi 20h30, un bon douf là.
Non, 15h30.
15h30. 15h30,
ouais,
15h30 bon douf.
Déjà que.
Voilà déjà. Exactement. Au moins vous jouerez dans l'après-midi.
15h30.
Face à Lorient, AS Gosier Lorient, match à suivre.
Je pense que je vais y aller.
Donc, bah ouais,
cool. Bah ouais, il y a Claudio, il y a KU de l'autre côté.
Pourquoi pas.
Bah ouais. Écoute. Bon. J'aimerais bien qu'il fasse l'exploit. Comme ça, je pourrais chambrer KU.
Merci Claudio. Bon retour merci à Clairefontaine.
Allez, bon courage en tout cas.
Et à bientôt sur RMC. Dans un instant, Rotten se chauffe.
On embrasse toute la Guadeloupe, bien
exactement,
sûr.
Exactement, qui nous écoute d'ailleurs.
Et la Martinique. Hein.
Reverra-t-on le grand Ousmane Dembélé à tout de suite sur RMC pour en débattre avec nous.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h02 sur RMC, on est là, on est bien, la deuxième heure de Rotten sans flamme, c'est maintenant. Merci Claudio d'être venu nous livrer ses impressions sur le match de demain de Coupe de France et puis sur son sur sa vie, sa nouvelle vie aussi. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. On est avec Christophe Dugarry, avec Jean-Pierre Papin, avec Benoît Boutron. On a passé une bonne première heure, hein, Benoît. Donc elle est disponible en podcast. Vous pouvez aller vous abonner à la chaîne Rotten sans flamme, comme ça vous avez accès à tout. Et surtout, restez avec nous.
Ah là oui.
Parce qu'il y a encore un bon thème, le thème préféré de Benoît Boutron.
Exactement. 19h45, le quiz de Rotten sans flamme. Tous contre Rotten, avec à gagner cette semaine une enceinte prodige de la marque française Absolument. C'est fabriqué à partir de matériaux recyclés et durables, doté d'un design intemporel et surtout une sonorité exceptionnelle. Pour remporter cette enceinte Absolument, 32-16 touche 4 au quiz par SMS au 7-32-16. À 19h30, on va continuer nos bilans de la Ligue 1. On avait démarré par les clubs mardi, aujourd'hui spécial entraîneur, cette question. Est-ce que Pierre Sage est forcément le meilleur sur cette première partie de saison ou est-ce que d'autres coachs se sont distingués? On vous attend en 32-16 pour en débattre avec nous. Et puis vous le savez, on continue ce soir le jeu de Noël.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Une journée folle parce que c'est la journée du double cadeau. Vous allez remporter la casse du jour, comme tous les jours, en ce 18 décembre, avec des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5 ou des Nintendo Switch 2 grâce à Micromania Zing. Mais surtout, vous allez pouvoir gagner un deuxième cadeau puisque vous aurez le choix entre toutes les autres cases du 19 au 24 décembre. Deux cadeaux à gagner ce soir dans Rotten sans flamme sur RMC. Il suffit d'envoyer Noël par SMS au 732-16. Noël au 732-16. 19h04 sur RMC. La roue commence à tourner pour Dembélé.
Paris vient d'ouvrir la marque par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé. Ferrat Skilia dans la surface de réparation. La frappe de Dembélé. Et le but.
Dembélé.
Dembélé blessé.
Ah là, c'est
il se tient
nouvelle.
La cuisse.
Dembélé qui revient sur son pied gauche. La frappe de Dembélé est trop enlevée. Au-dessus.
C'est pas possible.
Manque de précision technique chez Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé face à Rossi pour permettre au Paris Saint-Germain de faire le break. Là aussi, beaucoup d'élan pour Dembélé qui, comme d'habitude, change de pied. C'est parti. Au-dessus. C'est au-dessus. C'est incroyable. Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible.
Encore une soirée frustrante pour le Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé, entré à la 78e minute de cette finale de la Coupe Intercontinentale. De la bonne volonté, quelques enchaînements de qualité. On a reconnu les dribbles de Dembélé, mais un manque d'efficacité devant le but. Deux occasions manquées, notamment pour Dembélé. Rappelons que son début de saison a été freiné par deux blessures. Une à l'ischio le 5 septembre en équipe de France. L'autre au mollet, c'était début novembre. Le bilan de sa première partie de saison. 13 matchs disputés. 3 buts inscrits, 3 passes décisives. La moyenne de temps de jeu de Dembélé, c'est 40 minutes par match. Une seule rencontre disputée en intégralité, c'était la Super Coupe d'Europe, le 13 août, face à Tottenham. Le débat de Rotten sans flamme ce soir à 19h. Est-ce qu'on reverra un jour le grand Ousmane Dembélé, 32-16, pour en débattre avec nous? Alors Jérôme, qu'est-ce que tu penses de ce débat?
Écoute, ce que je pense de ce débat, c'est que j'ai pas vu la boule de cristal, ta elle boule arrive, de cristal ou la ou celle de certains qui sont plus doués que moi certainement dans
du
l'analyse
gars, tu d'un, ta boule de cristal,
d'un
toi, ou pas
non mais dans l'analyse d'un joueur.
Je l'ai.
Non, je suis sûr que Dugas il va dire comme moi, c'est pas possible. moi je veux bien qu'on soit critique sur le début de saison de Dembélé, qu'il ait accumulé les blessures, qu'on a
l'impression vraiment qu'il n'est pas encore rentré dans son année, qu'il a du mal peut-être à digérer tous ces trophées gagnés, que ça soit collectivement ou individuellement. Je peux le comprendre. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que pour lui aussi, gagner la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, c'est un aboutissement, c'est une finalité, et qu'il a du mal à repartir. Ça peut se comprendre aussi, hein. Je dis pas que moi, j'aurais été comme ça si ça avait été le cas ou d'autres, mais peut-être que lui, c'est ça. Après, il y a forcément une décompression, il y a une fatigue, on le ressent avec ses blessures. La décompression, peut-être avec la rechute, du moins la deuxième blessure suite à la première, au mollet, et puis avant c'était à l'ischio. Mmh. Donc on peut peut-être comprendre, en fait, même au niveau du comportement, dans l'attitude, moi ce qu'on m'a dit, et je l'ai donné les infos hier, en effet, où on a quand même l'impression qu'il s'est bien géré sur les premiers mois. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai aucun doute que ce mec, qui est professionnel depuis maintenant plus de 10 ans, qui a joué dans les plus grands clubs, qui a enchaîné à Barcelone après avoir été très souvent blessé, il a enchaîné les matchs sur la dernière année, ce qui lui a valu d'être recruté par le Paris Saint-Germain. Depuis qu'il est au PSG, franchement, il y a très peu de blessures, à part là, dernièrement. Donc ça veut dire que en termes d'hygiène, en termes de concentration, de conscience professionnelle, même de travail, il est totalement open. Il a continué à progresser, il a atteint un niveau stratosphérique, et c'est pour ça que j'ai du mal à entendre les critiques des gens qui sont des donneurs de leçons pour moi et qui disent Dembélé, il ne retrouvera jamais ce niveau de l'année dernière, c'était limite par hasard qu'il a atteint ce niveau-là et qu'on va il va retomber dans ses travers. Mais déjà, c'est méchant de dire ça, parce que c'est manquer de respect aux footballeurs et aux footballeurs professionnels, et surtout aux footballeurs de très
haut niveau. On n'a plus le droit d'être méchant.
Non, mais de très haut niveau.
Mais
du gars, en fait, le truc, c'est que c'est pour ça. Après, je sais, toi, ce que tu vas dire.
Ah non,
et peut-être. Si, je me doute. Je me doute. Et moi, je vais te dire le point d'interrogation que j'ai sur Ousmane, c'est que je ne sais pas si physiquement et dans la tête, il va être capable de refaire ce qu'il a fait pendant bon nombre de mois.
C'est toute la question.
C'est tout. Donc ça, je le sais pas. Aujourd'hui, en effet, physiquement, pour atteindre le niveau, mais comme tous les joueurs, parce que il y a pas que Ousmane Dembélé. Hier, j'entendais certains qui disaient non, mais Ousmane Dembélé, par rapport à ce que demande Luis Enrique, si physiquement il est pas bien, il peut pas exploser, il peut pas être très bon. Mais c'est tous les joueurs aujourd'hui, tous les joueurs. Il y a pas besoin d'avoir Luis Enrique sur le banc de touche pour se rendre compte que le physique, et même à notre période, il est très important. Tu peux pas faire jouer ta technique si physiquement t'es pas au top. Donc oui, Dembélé aujourd'hui, par rapport aux stats et par rapport à ses blessures qui sont accumulées, en effet, physiquement, il est pas au top. Voilà. Moi, je dis juste que, vu que là, il est plus blessé, il commence à faire des apparitions, bah, j'imagine que physiquement, il va continuer sa progression et il va atteindre un bon niveau au mois de janvier. Et moi, j'attends en effet de retrouver, et j'ai pas de doute là-dessus, de retrouver un Dembélé très performant quand physiquement, il sera au top. Voilà. Après, et si il nous refait une troisième blessure de suite là prochainement parce qu'il joue un peu trop, bah là, ça sentira peut-être pas bon pour la suite de sa saison, ça c'est sûr.
Est-ce qu'on reverra le grand Dembélé du gars alors?
Il a changé d'avis, le Jérôme, à la fin. C'est fou, ça.
Bah non, tu vois. Non. Ah, tu voulais parler du physique, mais... toi?
Non, mais moi, ma vraie question, elle est là. Moi, si son physique lui permet de le laisser tranquille, son niveau, il le gardera. Je te dis pas qu'il sera capable de refaire la saison exceptionnelle qu'il a faite, parce que, comme le nom l'indique, c'est une saison exceptionnelle. Donc, est-ce qu'il sera capable de le refaire? Je n'en sais rien. Moi, ce qui m'inquiète sur Dembélé, c'est parce qu'il a dans les pieds. C'est ce qu'il a et dans la tête et dans son corps. Voilà, moi c'est plus ça. C'est un garçon, je pense que dans sa carrière, alors j'ai pas les statistiques exactes, mais sa carrière est quand même souvent jugulée par des blessures. Il a plus souvent été blessé, j'ai l'impression, que en forme. C'est pas un garçon qui est formaté pour être un jour Ballon d'Or. C'est un garçon qui prend le foot avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse, qui a souvent été, souviens-toi, à Barcelone, qui arrivait tout le temps en retard à l'entraînement, qui prend un peu le football comme un tel plaisir dans sa façon de jouer, c'est un artiste, c'est un romantique du football, un peu Dembélé. Je pense qu'il n'a pas été formaté pour être un jour Ballon d'Or. Et tout ce qui lui est arrivé dans ces 6 mois,
même si on pouvait sentir qu'il en avait le potentiel, personne ne pouvait l'imaginer une seule seconde. Et je pense que même lui, à un moment ou un autre, est-ce que moi je pense pas que c'est un imposteur. Je pense que son titre de Ballon d'Or, il a largement mérité. Il a été magique.
Bah, oui.
Mais je pense que dans ta tête, quand t'as pas été formaté pour ça, quand t'as eu autant de difficultés et que ton corps t'a aussi peu laissé tranquille, t'as eu autant de difficultés à avoir une forme de professionnalisme, une forme d'exigence du quotidien, en te disant je vais être le meilleur, je suis formaté pour être le meilleur, je vais tout donner pour être le meilleur. Je pense pas que Dembélé, dans sa vie du quotidien, dans sa passion pour le foot, dans sa relation avec le foot, c'est ce qu'il a désiré. Et je pense que ce qu'il a vécu pendant 6 mois, c'était tellement magique, soudain, incroyable, inimaginable, que peut-être même lui, il a ce syndrome un peu peut-être de l'imposteur.
Ouais, mais du gars, c'est pas venu du jour au lendemain, ce niveau-là. Il a eu cette conscience-là avant.
Mais arrête, à Barcelone, il fait un entraînement sur deux, il arrive en retard.
C'était les premières années. Non, mais franchement, du gars, c'est la vérité. Mais pas les deux dernières années.
Un peu moins. Mais pareil. Ils ont fallu qu'il lui mette un chef cuistot, un mec qui venait le réveiller, un mec qui lui mette le réveil. Non, mais Jérôme, ça a été compliqué pour lui, parce que c'est pas dans sa nature. Mais c'est pas grave dans l'absolu. Ça reste un artiste du football. Mais après, les mecs qui sont formatés pour être Ballon d'Or, et je le vois à chaque fois, j'ai vu encore sur le match d'hier, les caméras qui sont sur lui alors qu'il est sur le banc de touche. Le mec, il est Ballon d'Or. Chaque fois qu'il va rentrer sur le terrain, c'est un Ballon d'Or qui va rentrer sur le terrain. Et peut-être que ça, inconsciemment, ça joue dans la tête du mec. Parce qu'en plus, juste après, je laisse parler Jean-Pierre. En plus, il est en concurrence avec d'autres joueurs, donc avec d'autres très grands joueurs qui auraient pu peut-être être aussi Ballon d'Or, qui auraient pu être aussi gagner ce titre-là. Donc, forcément, il y a une pression supplémentaire qui s'anime sur lui. Comment va répondre son corps à cette pression? Comment va répondre sa tête à cette pression-là? Moi, j'ai un doute. J'ai un doute sur le fait qu'on puisse revoir le Dembélé extraordinaire qu'on a vu les 6 derniers mois. Après, je pense aussi que avec ce qu'il a dans les pieds, il va pas devenir mauvais. Ça n'existe pas.
Bah oui.
Voilà, Jean-Pierre, toi qui dois bien comprendre ce que c'est que la digestion d'un Ballon d'Or, alors.
Moi, en fait, quand je vois jouer Dembélé aujourd'hui, pour moi, déjà, il n'est pas à 100%.
Ah oui.
Il digère encore toutes les blessures qu'il a eues, les 2-3 blessures récidivistes qu'il a eues depuis le début de la saison. Moi, ce qui me réconforte un petit peu, c'est les actions que j'ai vues de lui hier.
Je suis d'accord avec toi.
Avec ses crochets, avec ses feintes de frappe, ses frappes. Même si aujourd'hui c'est pas cadré, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave parce que je pense qu'il est en train de reprendre confiance. Comme l'a dit tout à fait très justement Duga, c'est vrai qu'un Ballon d'Or, il faut le digérer. C'est pas si simple.
C'est dur ça, JPP. Ouais.
Oui, c'est dur à digérer. Après, il faut assumer. Tout le monde n'est pas capable d'assumer. Ça c'est clair.
Et ouais, est-ce qu'il a le caractère pour ça? Ça paraît être un garçon un peu réservé, tu vois, un peu.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que si son corps le laisse tranquille, je pense qu'on va retrouver le Dembélé qu'on a vu. Je te dis, moi, j'ai vu des bribes hier qui me laissent penser que
ça va revenir. Ouais.
C'est sur le retour. C'est sur le retour. Après, sincèrement, l'année qu'ils ont faite avec je sais pas combien de matchs, 70 matchs, c'est juste hallucinant.
Oui.
Je comprends que les corps aient pas tout à fait résisté à cette charge de travail supplémentaire.
Et puis,
mais moi, j'ai bon espoir de voir Dembélé revenir à son meilleur niveau. Peut-être pas de suite, mais en début d'année prochaine.
Mais là, Jean-Pierre, tu sais ce que je disais sur moi, Jérôme. J'avais la même réflexion hier, on commentait le match avec Benoît, avec Jean-Louis, avec Arthur, et quand je l'ai vu faire cette entrée-là, alors au début, ça m'a un peu embêté parce que c'est vrai qu'il était pas trop dans le rythme, mais une fois qu'il a commencé à éliminer un joueur, deux joueurs, de tenter de se créer des occasions, bien sûr que il a tué 3 pigeons sur ses 3 frappes, il y a pas de souci. Mais n'empêche que
le pénalty raté, c'est anecdotique.
Oui, parce que puis c'est une question de confiance aussi.
Ça peut arriver à tout le monde, sincèrement, ça peut arriver à tout le monde.
Bon, moi, ça m'est pas arrivé, mais en tout cas, mais tu peux en foirer un, ça c'est sûr. Mais oui. je trouve que comme il frappe, il y a aussi, tu sais, du gars, tu parlais de sa personnalité. Bien sûr que c'est quelqu'un qui est un petit peu introverti, mais qui est réservé. Moi, je l'ai vu dernièrement aussi. Franchement, t'as pas l'impression de parler avec un Ballon d'Or, quoi. Tu vois,
c'est vraiment sympathique. Mais quand je revois les images avec sa maman,
Ben oui. Ouais.
Moi, je me pose des questions sur qu'est-ce qui se passe après dans sa vie de tous les jours, quoi. Tu vois.
Ah ben oui.
Ça ne doit pas être si simple que ça, d'après ce que ça transpirait.
C'est vrai.
C'est pas tout.
Non, mais c'est pas simple. Par contre,
la digestion.
Par contre, c'est vrai que.
Et puis on en a vu d'autres. Excusez-moi, si on fait la liste de tous les ballons d'or, des Kaka, des Modric, des Magic, ils n'ont pas retrouvé le niveau qu'ils ont eu.
Mais il y en a peu qui ont confirmé.
Mais non, mais en plus,
il y en a plein qui n'ont pas confirmé.
Là où t'as raison, c'est que déjà t'es surveillé différemment. Mais ça, Jean-Pierre, je pense qu'il peut en parler mieux que moi. Surtout quand t'es un joueur offensif. Donc oui, on fait plus attention aujourd'hui à Dembélé quand il va toucher le ballon que l'année dernière, même si l'année dernière, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que le point fort, il était là, il fallait le contrôler, mais ils ont eu du mal à le contrôler.
Et s'il revient à son meilleur niveau, mais y a personne qui contrôlera rien du tout.
Oui, et puis
il est inarrêtable. C'est son meilleur niveau physique. Ouais. C'est juste ça.
C'est vrai.
Et puis il y a autre chose. Il y a un élément dont vous avez parlé.
Mais c'est là-dessus, du gars, que moi, en fait, je veux bien qu'on retienne les premières années de Dembélé, quand il était à Dortmund, quand il était à Barcelone, quand il venait d'arriver. Ou même lui, il reconnaît, il a fait quelques conneries. Je pense que la presse aussi se sont servis, parce que je te dis encore une fois, je vais pas trahir ce qu'il m'a dit et ce qu'on s'est dit dernièrement, mais la vérité c'est qu'on en a beaucoup rajouté sur son hygiène, sur le fait que il joue à la PlayStation jusqu'à 6h du matin, que il fait des déplacements, il a pas envie de s'entraîner.
Il y a un moment.
Oui, mais sauf que on en a beaucoup rajouté sur ça. Mais depuis maintenant. Non, ça fait combien de temps qu'il est à Paris? Ça fait trois ans à Paris. Les deux dernières années à Barcelone, ça fait 5 ans. Je peux vous dire que moi, je le sais parce que ils me l'ont dit. Son entourage proche qui s'occupe de sa carrière aujourd'hui, c'est une usine. Hein. C'est une usine.
Tout s'est professionnalisé autour de lui.
Complètement. Ouais. Et la preuve, c'est que ils avaient aucun doute qu'il atteigne un niveau stratosphérique. Alors nous, on pouvait pas s'imaginer. Moi le premier. Je pouvais pas m'imaginer que Dembélé devienne comme il a été l'année dernière et finisse Ballon d'Or. Mais n'empêche que le niveau déjà qu'il avait avant qu'il ait ce Ballon d'Or et avant de faire ses 6 mois là, stratosphériques l'année dernière, le niveau, il était déjà très très bon. Quoi.
Accueillons Fred, supporter rennais, qui veut nous parler de Dembélé ce soir dans Rotten sans flamme.
Salut Fred.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Fred.
Bonsoir.
Bon, alors Fred, qu'est-ce que tu en penses de Dembélé? Est-ce que toi, t'as une inquiétude sur le fait qu'il retrouve un très bon niveau?
Non, je suis pas inquiet. Voilà, mon avis est le suivant, c'est que je pense que l'apogée d'Embélé, c'était la saison dernière. Il a eu, comme vous l'avez dit, il a fait une saison exceptionnelle, comme tout l'ensemble d'ailleurs du groupe du PSG. Là-dessus, il y a rien à dire, il y a pas de débat. Il a toujours, c'est un joueur qui a toujours été embêté par des pépins physiques, etc. Aujourd'hui, il est encore au PSG. Je pense que c'est l'une de ses dernières années au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il retrouvera son niveau? Je pense pas, parce qu'encore une fois, il a tellement performé la saison dernière que je vois pas comment il peut revenir à ce niveau-là. C'est mon avis. Maintenant, ça reste un joueur incroyable. Voilà, il est capable de fulgurance exceptionnelle. Je dis pas qu'il va devenir mauvais du jour au lendemain, ça c'est sûr que non. Mais par contre, retrouver le niveau qu'il avait l'an passé, je pense que.
Tu penses pas que c'est lié aussi, parce qu'on vient d'en parler avec Duguay et avec Jean-Pierre, mais pour te répondre à ça, que c'est aussi lié sa bonne période, du moins c'est même plus qu'une bonne période l'année dernière, du moins où il était stratosphérique, c'est aussi lié à ce collectif du PSG qui était impressionnant. Quand tu confisques le ballon à l'adversaire, que dans ton pressing il marche autant et que t'arrives à avoir 75% de la balle à chaque fois et que à chaque fois qu'il est touché c'est dans les bonnes positions avec un entraîneur qui quand même l'a façonné, hein, parce qu'il l'a mis dans une position qui n'était pas forcément la sienne au départ.
C'est la trouvaille de Luis Enrique, c'est sûr.
Tu penses pas que si le PSG dégage autant de force, c'est pas le cas aujourd'hui, hein, attention, mais c'est possible que le PSG retrouve collectivement beaucoup de force comme l'année dernière, que Dembélé il en profite et qu'il soit dans la continuité de l'année dernière.
Je pense pas que le PSG puisse retrouver son niveau sans un Dembélé à son niveau.
On est d'accord.
Je pense que tu vois aujourd'hui dans ce que montre le PSG où ils sont moins dominateurs. Il y a par séquence, ils y arrivent, mais sans un grand Dembélé, ouais, et même vrai. Un Kvaratskhelia, je pense qu'ils auront du mal à retrouver eux aussi le niveau de la saison dernière.
C'est
d'ailleurs
vrai.
On le voit, les matchs sont plus accrochés.
C'est vrai.
Mais il y a un aspect que vous calculez.
Ils ont besoin d'un grand Dembélé.
Il y a un aspect que vous évoquez peu, c'est que finalement Dembélé dans sa carrière, ça y est, il a tout gagné en fait. Il a gagné avec des champions, il a gagné la Coupe du Monde,
oui,
il a gagné
ça,
le Ballon d'Or.
Ça c'est l'eau des champions.
Parce qu'il a plus faim, tu veux dire.
C'est ça en fait. Est-ce qu'il a vraiment faim? Qu'est-ce qu'il doit aller chercher à part la Coupe du Monde 2026?
Ça, franchement, alors tu voulais que je m'énerve et que je transpire, mais là ça va être le cas. Mais en fait, c'est rien comprendre au sport de haut niveau. En fait.
Bah si, Jérôme. Et
qu'est-ce qu'est un compétiteur? Non, mais c'est quoi un compétiteur? Donc t'as gagné, oui, t'as tout gagné. Non, mais le charme du foot, pour parler de notre sport, parce qu'il y a d'autres sports, c'est pareil, mais le charme du foot, c'est de se remettre en question. Tous les trois jours, d'accord. Tous les trois jours. Après, t'as des grandes compètes.
Éclate-le, vas-y.
Non, mais t'as des grandes compètes. Donc, l'objectif en début d'année, en effet, c'est de tout gagner.
Qu'il a moins faim, peut-être.
Mais comment tu peux parler comme ça? Mais s'il a moins faim.
Christophe Dugarry, qui est champion du monde, champion d'Europe, est-ce qu'il avait encore faim après l'équipe de France?
Mais c'est pas une question d'avoir faim. Mais
moi, je suis un tocard, moi.
Mais non, moi, je suis pas d'accord. Les grands champions, ils savent se remettre. C'est quand t'atteins ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est pas par hasard, encore une fois.
Personne n'a dit que c'était par hasard.
Donc, s'il l'a atteint, c'est que la conscience professionnelle, l'état d'esprit, il est irréprochable. Et après, techniquement, stratosphérique. Tu penses que ça, parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, qu'il a eu le Ballon d'Or, aujourd'hui, il se dit, maintenant.
Non, mais je pense que c'est dur.
Tu sais quoi, je vais en faire un peu moins. Mais au contraire, moi, je vais te dire, c'est comme le PSG. Aujourd'hui, tu pourrais dire, ils ont tout gagné l'année dernière. Bah, cette année, tu sais quoi, c'est pas grave. Ils gagnent rien. Mais l'objectif du PSG, dans ces cas-là, ils arrêtent. Ils ont marqué la plus belle ligne du football français.
Personne
sur une année.
Ça, Jérôme.
D'accord?
Donc, je te dis juste que c'est dur de repartir au combat quand t'as tout gagné, j'imagine.
Mais c'est dur pour tous les champions. Mais c'est ce qui fait la différence.
C'est dur,
entre...
mais c'est le haut niveau.
Mais oui, bah,
évidemment, bien sûr.
Mais comment tu peux avoir un doute là-dessus?
Parce que si ton discours tenait la route, ça veut dire qu'il y aurait plein de ballons d'or qui s'enchaîneraient.
Mais non.
Là, l'exemple Messi et Ronaldo. Mais sinon, combien de mecs ont été assez performants après leur ballon d'or? Il y en a assez peu finalement.
Mais tu viens de donner l'exemple de Messi et Ronaldo.
Oui, mais c'est des extraterrestres.
Mais d'accord. Et ben, tu crois que parce que Dembélé aujourd'hui est un extraterrestre? Mais les gars, il faut arrêter de minimiser. Non, il est Ballon d'Or. Jean-Pierre a été Ballon d'Or. C'est pas parce qu'il est là. Jean-Pierre, il a été de stratosphérique.
C'est des mauvais joueurs. Au-dessus de la moyenne.
Demande à Jean-Pierre. C'est pas parce que derrière, après son Ballon d'Or, il l'a pas eu, que d'un seul coup, il avait plus faim. Jean-Pierre, t'avais faim après ton Ballon d'Or?
Est-ce
ou pas
que t'avais faim, Jean-Pierre?
Alors moi, sincèrement, chaque fois que j'étais champion, la seule chose que je voulais, c'est être champion encore.
Ben voilà.
Et encore. Parce que c'est le but qu'on a tous. Personnel bien évidemment, mais collectivement, je pense qu'il n'y a pas un joueur du PSG aujourd'hui qui veut pas encore gagner le championnat, qui veut pas gagner encore la Coupe d'Europe, etc. Non, qu'il est moins fin, non, je pense qu'il est pas prêt, c'est tout. Moi, je pense qu'il est pas prêt. Mais je pense qu'il a...
Puis quel âge il a, Dembélé? Donne-moi son âge. Non, ben parce
28
que
29,
mais 28 ans. Mais t'imagines ce que t'es en train de me dire?
Tu transpires, là, Jérôme.
Non, mais arrête. Il aurait 35, 38 ans, 40 balais. Je te dirais oui, ok. Bah le mec, il a du mal parce que là, c'est ce qu'il y a de plus dur quand tu vieillis, c'est d'en faire encore un peu plus physiquement pour rester au niveau des plus jeunes. Et Claudio à un autre niveau, ils viennent te le dire. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais à 28 ans, mais mentalement, mais c'est une machine de guerre, ce mec.
Attention, il a tout gagné. Ça aussi. 28 ans, il a démarré à 17 ans.
D'accord.
Ça a été un phénomène. C'est pas les mêmes carrières aussi.
Mais ça fait 11 ans. Mais attends, mais une carrière de footeux, Benoît. On est dedans depuis l'âge de 13, 14 ans.
Il a gagné son premier titre à quel âge, Dembélé?
Ah bah c'est tôt. Hein.
C'est tôt quand il est pas.
Quand il est à Dortmund.
Dortmund, il a gagné un titre là-bas.
On va vérifier.
Moi, je suis pas sûr. Le Bayern, il gagne tout. Alors...
Il a gagné une coupe à Dortmund.
Voilà, il a gagné une coupe. Donc,
2017.
Et puis derrière, on a dit c'est bon, il a gagné la coupe, et il arrête de jouer.
Il y a 8 ans.
Non, mais arrête. C'est un discours qui est inaudible.
Je suis pas en train
après,
de vous dire.
On peut se poser des questions, bien évidemment. Mais moi, quand je vois les 3-4 dernières minutes où je le commence à le voir faire, les feintes de frappe, les crochets, les tentatives, je me dis qu'il y a encore du Dembélé encore qui va arriver.
Eh ben on verra. En tout cas, on a hâte de voir. On espère qu'il reviendra à ce
les grands
niveau
champions,
magnifique.
Benoît, ils s'arrêtent jamais. Ouais. Voilà, ils ont toujours envie. Et pour moi, il n'y a pas que les grands champions. Tous les sportifs de haut niveau, ils s'arrêtent pas à un titre ou à un titre majeur ou quoi que ce soit. Ils veulent toujours gagner. Après, des fois, ça arrive pas, ça revient pas. Mais c'est pas pour autant que t'as la digestion, tu es pas capable de la faire.
Pour terminer, vous savez combien de matchs Dembélé a manqué la semaine dernière, Ligue 1 et Ligue des Champions confondus, sur blessure?
À mon avis, 3.
Sur blessure, hein.
Sur
Un sur blessure.
Il a loupé
deux matchs de Ligue des Champions, un sanction disciplinaire avant Arsenal. Et l'autre suspension face à Leipzig. Voilà. Sinon, il a joué tous les matchs de Ligue des Champions.
Mais c'est ce qu'on te disait.
C'est la continuité surtout.
Mais le physique, mais c'est le cas de tous les joueurs. Regarde Nuno Mendes.
Oui.
Nuno Mendes, aujourd'hui, il est moins performant, stratosphérique Nuno Mendes. Il est moins performant, pourquoi ? Il a accumulé les blessures.
Bien sûr.
Il revient, il est moins bon. Mais c'est pas parce que il a plus faim, parce que ceci, cela. C'est
pas
parce
le même âge et pas le même statut. Hein.
Mais parce que physiquement, il est moins bien. Mais quand il va revenir au top, tu vas voir si le pied, il va pas parler.
Merci à Fred, qui est venu au 32-16.
Merci Fred.
Tu rappelles quand tu veux.
C'est bon, t'as changé d'avis, Benoît?
Non, pas du tout. Je suis toujours, j'attends la boule de cristal de Christophe Dugarry. Moi, c'est elle qui dira la vérité. C'est ça qui m'intéresse.
Oh, bon, t'as plein de zigotos, là, qui ont la boule de cristal. Vas-y, écoute-les, hein. Tu vois, tu rigoles.
Dans un instant.
Jamais été sur un terrain de foot.
Les bilans de Ligue 1 qui vont continuer dans Rotten sans flamme. La spéciale coach ce soir. Est-ce que Pierre Sage est forcément le meilleur sur cette première partie de saison? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h31 sur RMC. On est là. On est bien dans Rotten sans flamme. La dernière demi-heure déjà. Elle est passée vite avec Jean-Pierre Papin, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron, cette heure et demie. Mais on est là jusqu'à 20h comme tous les soirs. Restez bien avec nous. Là, on va parler de.
Des coachs. Bilan de la première partie
bilan,
de saison de Ligue 1.
On a fait le bilan hier des équipes.
Avant-hier, tout à fait. Des clubs.
Non, c'était avant-hier.
Ouais.
Oui, c'est vrai que c'était avant-hier. Il y avait le match en direct. Donc, on n'a pas fait d'émission.
Demain, les joueurs et les consultants dans Rotten sans flamme.
Ça va être marrant, ça.
On fait le bilan de la première partie de saison.
Ah, ça va être marrant.
Ouais, on a hâte de savoir. Les tops et les
consultants, ils sont déjà au courant. Hein.
Dans un quart d'heure, tous contre Rotten, le quiz a gagné une enceinte prodige de la marque française Absolument, avec une sonorité exceptionnelle. 32-16 touche 4, où vous envoyez quiz par SMS au 732-16. On reprend donc.
Il y a le jeu de Noël aussi. Hein.
Et le jeu de Noël, oui, parce que le vainqueur s'arrête dans 10 minutes. Bah, envoyez encore Noël par SMS au 732-16.
C'est quoi, j'ai pas compris
le jeu. Double cadeau.
Ouais, double
cadeau. Tu gagnes la case du jour, donc le 18 décembre. Et en plus de ça, tu peux choisir une deuxième case entre le 19 et le 24 décembre. Et là, t'as un deuxième cadeau qui tombe. Bam! Comme ça.
Paf!
Incroyable.
Paf!
Allez, on y va pour le bilan. Et cette fois, on parle des entraîneurs.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Vous aimez que les beaufs? Vous aimez que ça? Vous savez ce que vous aimez comme entraîneur? Les BCBG? Je ne suis pas. Bonjour, je suis pas ça. Quand on m'agresse, je réponds. Ah, vous aimez pas les gars qui ont un peu de tempérament? Vous les aimez pas en France? Je le sais, je suis pas aimé, c'est pas grave.
Oui. Voilà. Pas grave.
La VAR de Rotten sans flamme.
Bonetti, incroyable. Qu'on salue d'ailleurs.
Pas grave.
Alors, après les clubs mardi, bilan des entraîneurs ce soir. Seuls deux coachs ont perdu leur poste depuis le début de saison. On le rappelle, à 18h à Monaco, remplacé par Pocognoli. Luis Castro à Nantes, remplacé par Ahmed Kantari. Pierre Sage, forcément, est régulièrement cité. Il est en tête du championnat avec Lens, un point d'avance sur le PSG. D'autres noms peuvent venir. Paulo Fonseca, cinquième de Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais, alors qu'on promettait l'enfer à l'OL et que Lyon est en tête de Ligue Europa. Roberto De Zerbi, peut-être que Duga va nous dire que c'est De Zerbi la révélation des coachs de ce début de saison.
Ouais.
Allons-y donc sur le bilan de Ligue 1 spécial coach.
Tu lis dans ma boule de cristal.
Ça y est, on l'a retrouvé. Excellent. Est-ce que Pierre Sage est forcément le meilleur coach de cette première partie de saison, Duga? Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors?
Oh là là. Oui, il est dans les deux, trois premiers, bien sûr. Ce qu'il réalise, c'est tout bonnement incroyable. Après, moi, j'aime bien aussi, tu vois, ce que réalise par l'entraîneur du Havre, tu vois, Digard aussi, il a zéro moyen, le mec, il a rien du tout.
Pour de bon, lui, il a rien.
C'est tout aussi admirable, quoi.
Ouais. Ben oui, j'ai envie aussi de relever ça, parce que c'est peut-être une autre façon d'entraîner, une autre façon de voir le football, d'autres difficultés. J'aime bien ce que fait Habib Bey aussi, malgré les difficultés qu'il a connues, il a failli se faire virer. Et là, pour une première année au plus haut niveau, mais écoute, c'est quand même pas mal ce qu'il réalise. Pourquoi à chaque fois il faut remettre? C'est tellement un métier différent, je pense, d'un club à un autre, d'un statut à un autre. Le projet club est différent, les moyens sont différents. Je pense que c'est toujours plus difficile d'entraîner quand t'as pas de moyens que quand t'en as. Même si entraîner des stars, c'est loin d'être facile aussi. Mais je pense que c'est toujours plus difficile. Après, il faut pas enlever aussi Luis Enrique, ce qui réalise, ce qu'il est en passe de réaliser malgré des résultats moins emballant que la saison dernière, c'est aussi très bon. Bon, voilà, moi je suis Sage est certainement le plus à faire remarquer. Mais il y en a d'autres quand même qui sont intéressants. Moi, je te rends compte ce qu'il réalise à Lyon quand même, le mec.
Ah oui,
il a pas d'avant-centre. Il joue sans attaquant, le mec. Ou sans attaquant, c'est dur pour ceux qui jouent attaquant. Mais tu te rends compte les joueurs qu'il a, le pauvre, les jeunes qu'il a réussi à mettre en place. Alors, c'est toute une cellule de recrutement, c'est tout un staff.
Ouais, avec Fofana en plus qui s'est blessé.
C'est pas qu'un entraîneur. Tu te rends compte, le mec, ce qu'il arrive à faire, meilleure équipe d'Europe en Europa League. Bon, c'est pas rien aussi. C'est à mettre en avant, donc il y en a 3-4 vraiment qui font une première partie de saison.
T'as pas dit De Zerbi, du gars.
Incroyable. Moi De Zerbi, par rapport à l'effectif qu'il a,
ça sera plus dans les flops.
Les flops, vous pouvez pas aller jusque là, mais je m'attends à mieux en termes de fond de jeu, en termes de qualité de jeu. Je reste sur ma faim encore.
Alors.
Je pensais que du gars il est tranché, mais bon, il a pas envie. Donc il m'a cité 7-8 entraîneurs.
Pas facile.
T'as oublié du jeu aussi qui fait du très bon boulot avec Angers,
avec zéro moyen, pareil, et
qui est le mieux placé de tous ces clubs qui ont pas de moyens.
Et celui qui a un des meilleurs footballs, je pense.
En plus, donc non. Non, mais moi, très honnêtement, ça dépend des moyens du club, mais là, par rapport aux moyens qui sont pas stratosphériques à Lens, quand on voit le début de saison, quand on voit que Jean-Louis Leca, il a été obligé de faire avec les petits bouts de ficelle par moment pour recruter des joueurs, de se déplacer personnellement, de faire tant d'heures de voiture parce que pas forcément les moyens de payer des avions, des hôtels et tout ça, et d'aller essayer de convaincre des joueurs. Et là, je pense à Sangaré. Au milieu de terrain. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu as ces moyens-là qui sont limités, que l'attaquant, tu n'as pas pu le faire parce que, faute de moyens, ils ont voulu prendre Sudocer.
Sinayoko,
mais ça ne s'est pas fait parce que, on connaît l'histoire. Après, il y avait un budget pour un attaquant entre 8 et 10 millions, mais pas plus. Ah mais franchement, tu fais quoi, un attaquant en Ligue 1 pour marquer des buts, hein?
Ils ont fait Hudson-Edouard.
Non mais c'est pour ça. Non mais ça c'est donc t'as fait avec les moyens du bord, et que Pierre Sage, il vient d'arriver et il dégage cette force-là, cet état d'esprit qui est irréprochable, et cette force collective, parce que quand tu vois le classement aujourd'hui, en 16 matchs, il a gagné 13 matchs.
Ah oui, 12.
Non, 12 matchs. Ouais. En 16 matchs.
Et 37 points en 16 jours.
Mais c'est remarquable. Ouais. Donc moi, bien sûr que celui qui est au-dessus des autres pour l'instant, parce qu'il est au-dessus de tout le monde au classement, c'est Pierre Sage. Donc il y a qu'à le féliciter. Après, j'espère pour lui que ça va durer. Ça va pas être facile, mais franchement, avec les moyens et tout ce qu'on vient de dire, et même la façon de faire vivre ce collectif en très peu de temps, des joueurs qui se connaissaient pas forcément, bah écoute, moi je dis bravo.
Après, il y a peut-être deux critères, Jean-Pierre, qui peuvent nous aider à trancher. C'est est-ce que tu surperformes avec les moyens dont tu disposes, et est-ce que tu fais progresser tes joueurs. Et c'est pour ça que Pierre Sage, on est obligé de le mettre devant les autres, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais moi, Pierre Sage, Lens, il était là au départ. Ce qu'il a fait à Lyon déjà la dernière fois, sincèrement, c'était incroyable. Après, bien évidemment, on retient quand même la première place. On retient que au départ, c'était pas très évident. Ça commence par une défaite, et puis au fur et à mesure, il y a une équipe qui se dessine. Il y a un équilibre qui arrive. Il y a une série de victoires incroyables. Donc moi, Pierre Sage, numéro un. Et après, je suis j'aime beaucoup du jeu par rapport à ce que j'ai vu cette année.
Ouais, c'est vrai.
Avec des moyens quand même qui sont limités. C'est une des équipes qui certainement joue mieux au football de notre championnat. Et comme le disait Dugas, oui, j'ai un petit faible aussi pour Didier Digard, qui avec aussi très peu de moyens arrive à faire quand même. Arrive à faire déjà sauver le club l'année dernière et repartir cette année.
Il fait
avec
des miracles.
Moi je suis. Je vais m'arrêter là.
Bon, redevenons Rotten sans flamme. Qui sont les flops alors? Allez pas me citer les entraîneurs qui se sont fait virer. Hein,
c'est facile.
Celui de Monaco.
Qui Bocconioli?
Adi Hütter. Non, je vais te dire. Alors après, moi, peu importe, je m'en fous, qu'on me tombe dessus. Mais j'attendais beaucoup de Zerbi.
Tu le mets en flop.
L'année dernière. Non, mais je vais te dire. J'attendais beaucoup par rapport aux moyens. Je lui ai laissé sa chance. Rappelez-vous l'année dernière, j'ai toujours protégé parce que les résultats étaient plus importants que la structure d'équipe et tout ça. En plus, il n'avait pas forcément eu le mercato qu'il souhaitait. Là, ça a été le cas. C'est une deuxième année. Alors bien sûr que tu greffes la Ligue des Champions, mais normalement la Ligue des Champions, ça doit te pousser vers le haut et pas vers le bas. Et dans la structure d'équipe, dans ses choix, dans la façon de jouer de l'Olympique de Marseille, où trop souvent, je me demande, je sais pas ce qu'ils veulent faire en fait. Je sais pas, moi quand on m'explique qu'il y a un décalage entre le discours qu'il a ou le discours des dirigeants, j'ai entendu Mehdi Benatia venir là sur RMC et nous dire, moi j'ai quand je l'entends à la causerie d'avant-match, j'ai envie de rechausser les crampons. C'est la vérité, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous voyez ça dans l'état d'esprit des joueurs sur les débuts de match?
En flop.
Non, mais
tu mets pas Franck S. de Nice, tu mets pas Yannadou.
Mais si, mais bien sûr. Non, mais parce que moi, je suis extrêmement exigeant et surtout, je me rappelle aussi que quand on nous l'a présenté, De Zerbi, on nous l'a présenté, c'est limite un Guardiola bis, tu vois. Donc moi, je veux bien, tu nous présentes De Zerbi comme une révolution dans le coaching et tout ça, pas de souci. Bon, au bout d'un an et demi, on a ça. Bah, est-ce que vous êtes satisfait des matchs, du contenu de l'Olympique de Marseille?
Oui.
Bon, bah écoute, d'accord. Donc pour moi, par rapport aux résultats et par rapport au contenu et par rapport aux moyens, pour moi, c'est insuffisant. Et c'est pour ça que je suis un peu plus exigeant et un peu plus dur avec De Zerbi qu'avec des entraîneurs qui n'ont pas de moyens et qui se sont cassés la gueule. Non, oui, à 18h, on peut le dire.
Décevant, il y a Nice, l'entraîneur Aize, énorme déception.
Oui, c'est vrai.
L'entraîneur du Paris FC, malgré quand même de la qualité du jeu par moment, je trouve que par rapport au recrutement, quand même, ils ont un sacré budget, 14e à cette période de l'année, 14e de Ligue 1, c'est insuffisant. Et même celui de Strasbourg, tu vois, je les voyais un petit peu plus haut.
Qui avait bien démarré, qui souffle.
Ouais, exactement, ça commence un peu à s'essouffler. Bon, alors après, c'est une équipe jeune, bien évidemment, c'est une équipe, je crois, les plus jeunes des cinq grands championnats. Donc voilà, il faut laisser du temps effectivement, mais je reste un peu sur ma faim, voilà. Et voilà, bah Nice pour moi c'est un flop énorme. Pour moi c'est le pire.
Ouais,
c'est vrai
que Franquez là, moi je suis dur envers De Zerbi, mais si tu les flops 3, si t'en mets 3, le numéro 1, c'est forcément... Non, mais arrêtez. D'accord, le club, ok. Mais entre ce qu'il nous a vendu, ses conférences de presse, ce qu'il met en place, franchement, et les moyens, parce que, excuse-moi, même si c'est pas les moyens...
L'entraîneur de Nantes, on s'attendait à mieux aussi, l'entraîneur de Nantes.
Oui, mais l'entraîneur de Nantes, il joue avec des U18, du gars.
JPP, tu mets qui en flop, toi?
Moi, je suis déçu du parcours de Nice. Je suis déçu du parcours de Nice parce que quand je voyais ce que faisait Frank Hayes à Lens, j'étais un peu sous le charme. Depuis qu'il est arrivé à Nice, alors peut-être qu'il y a une cassure avec son groupe aussi, hein, ça c'est une possibilité. Et quand il y a cassure, malheureusement, c'est très compliqué de pouvoir reprendre le leadership. Un peu déçu aussi du entraîneur de Strasbourg, moi aussi. Je m'attendais à beaucoup mieux. Non, PFC, je leur laisse un petit peu de crédit encore parce que c'est jamais facile de monter en première division, de se maintenir. Donc je laisse un petit peu de temps. J'aurais bien voulu laisser du temps à Castro aussi parce que je pense que ce qu'il est en train de mettre en place, ça a commencé à prendre un petit peu. On lui a pas laissé le temps. Voilà.
Mais moi, pour défendre un peu Stéphane Gilly, hein, l'entraîneur du Paris FC, qu'on est allé il y a 10 jours, hein, 15 jours, on est allé les voir. Moi, la première chose que j'ai dit aux joueurs, c'est que je trouve qu'ils s'éclatent dans la façon de jouer et ils me l'ont confirmé.
Ce que t'aimes, c'est que ça joue au foot.
Ils m'ont dit,
il a des bonnes idées, vraiment des bonnes idées,
et il nous fait travailler. Alors c'est vrai que ça se reflète pas forcément par des résultats. La preuve, c'est que les résultats sont pas bons. Donc forcément, quand les résultats sont pas bons, bah qui on coupe la tête en premier, c'est à l'entraîneur.
Mais il mérite pas qu'on lui coupe la tête.
Mais même en plus, Duga et Jean-Pierre, moi, on s'est aperçu de pas mal de choses. Moi, ce qui me choque le plus dans la structure du PFC aujourd'hui, avec les moyens qu'ils ont, c'est d'avoir un directeur sportif que personne ne connaît.
Marc Onépeu,
qui est la structure, Bayern Munich, il nettoyait les chaussures. Bayern, arrête, excuse-moi, Bayern, c'est pas parce que. Non, mais arrête, on tient du Bayern Munich.
Toujours l'exagération.
Mais au Bayern, tu dis son nom, il n'y a personne qui le connaît. Arrête. Non, mais franchement.
Il ouvrait le portail.
Il avait le bip. C'est lui qui faisait rentrer.
Il nettoyait les chaussures.
Il portait les plots, en plus, des fois, à l'entraîneur. Non, mais. Bah, blague à part, ce que je veux dire, c'est que un mec qui vient de la structure Red Bull, qui fait le recrutement, bah, on a vu ce que ça avait donné, le recrutement.
Ouais, ça fonctionne
bah, ça marche pas. Et c'est je vrai. Trouve que, en étant sur place là-bas, il y a un manque de ce côté-là dans la structure. Mais même, c'est aussi simple. Dans le professionnalisme pour les joueurs, la conscience qu'ils peuvent avoir quand ils mettent le pied dedans, je pense qu'un directeur sportif, il doit avoir.
Tu postules ou quoi? Tu postules
ah
ou
ouais,
quoi,
c'est vrai?
Mais je postule quoi? Mais t'imagines, je vais pas mettre en PR et RMC.
Bah, non, mais attends. Tu peux faire les deux. Bah, comme si ça, on fait les émissions à Orly. Pourquoi pas?
Si je m'en vais, on perd toutes les audiences.
Dès que Duguay arrive du Maroc, hop, il vient direct au centre d'entraînement. Allez, le jeu de Noël. Le jeu de Noël, c'est Julien le grand gagnant du soir.
Je vais pas mettre en péril les RMC, vous avez aimé celle-là.
Ouais, très bien, excellent. Ah ouais. Julien avec nous au 32-16, Jérôme, c'est lui le grand gagnant.
Salut Juju.
Salut Jérôme, Julien. Bonjour à tous.
Ça va Julien?
Salut. Ça va super et vous?
C'était le jour où il fallait être sélectionné. Hein.
Ouais, super.
Bon, écoute, là t'as deux cadeaux, on a deux cadeaux à te faire gagner.
Déjà le 18 alors.
Le 18.
La caisse du jour.
Tu as gagné. Alors j'espère qu'ils m'ont pas fait une rédaction là.
Ah non.
Ah, parce qu'il faut
c'est
tout
bien
dire.
La speakerine.
Ouais. Alors, oh là là.
Allez, vas-y, tu lis tout. Hein.
Alors, tu as remporté, Juju, un séjour de 8 jours et 7 nuits en formule tout compris pour 2 adultes et 2 enfants dans les villages clubs du soleil, mer ou montagne, valeur de ce cadeau, 2500 euros.
Oh, c'est énorme, bravo Julien.
Merci beaucoup.
Et c'est que le premier des deux
immense,
cadeaux.
C'est immense.
Là, il faut que tu choisisses une case entre le 19 et le 24 décembre pour un deuxième cadeau. Qu'est-ce que tu choisis, Julien, alors?
Allez, le 24, le
allez,
réveillon.
24, le réveillon de Noël.
Ouais.
Oh là là. Déjà 2500 euros pour
parce
des
qu'il
vacances.
Y a la mère Noël qui se cache dans le...
Ah, c'est Louis Gerbier.
Eh ben écoute, c'est un chèque... Tu reçois 500 euros en plus, comme ça,
wow.
Tu passeras des bonnes vacances et surtout des bonnes fêtes, en tout cas. T'as des enfants?
Oui, j'ai deux.
Ah, bah en plus, voilà. Ça tombe bien.
C'est
écoute, c'est fantastique.
Bah, félicitations, Julien.
Vraiment, c'est un régal de te faire gagner ce genre de cadeau. Ah bah, c'est fantastique.
Merci beaucoup, avant les
fêtes. Joyeuses fêtes, continue d'écouter Rotten sans flamme parce que c'est là que ça se passe. Hein.
Et continue d'envoyer Noël par SMS au 732-16. Bravo, Julien, dans un
bravo,
instant.
Juju.
Tous contre Rotten, le quiz de Lou Gerbier. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h49 sur RMC, on est dans le quiz de Louis Gerbier. C'est le moment, comme fin d'émission, comme toute fin d'émission. On est avec Jean-Pierre Papin et Christophe Dugarry qui vont former une belle équipe. Benoît Boutron sera là pour arbitrer tout ça. Deux auditeurs, un super cadeau à vous faire gagner.
Exactement, et on y va, c'est parti.
RMC, tous contre Rotten.
Salut Louis Gerbier.
Salut l'équipe.
Avant
Luigi.
De commencer, une félicitation à Christophe Dugarry parce que le Maroc vient de remporter la Coupe arabe face à la Jordanie, la Coupe arabe de la FIFA. Bravo Dugas, félicitations à toi. Ouais. Tu fêteras
merci,
ça ce soir.
Pour rien. Merci. Voilà. Pour
victoire 3-2 des Marocains après prolongation.
Quelle émotion.
Vont s'affronter ce soir Omar et Fred. Ils sont là tous
mais
les
non,
deux.
Mais c'est une blague.
Au 32-16 pour s'affronter. Salut à vous deux.
Salut.
Salut Omar. Salut l'équipe.
Salut.
Bah, vous n'êtes plus aux soirées. C'est incroyable.
Omar de Marseille.
Omar de Marseille. Alors Omar de Marseille, tu veux jouer avec la légende JPP et Christophe Dugarry ou avec Jérôme?
JPP obligé. 182 buts.
182 buts, c'est vrai que là.
Et Fred avec Jérôme, le cadeau, c'est une mini enceinte portable, la marque Absolument.
Allez Fred.
La marque Absolument. Les amis, on va juste avant là, je prends Jean-Pierre à témoin. On a interviewé Claudio Beauvue et on n'a pas parlé de la berrichonne de Château. J'appelle ça un scandale.
C'est intéressant.
Voilà.
Merci. Si, je lui ai dit qu'il venait quand il a signé à Bastia, il venaient de Château.
Ouais, mais fallait en faire plus. Donc, genre 3-4 questions.
Il m'a dit, je te remercie d'avoir insisté parce que j'en pouvais plus.
Bon, le thème du soir, ce sont ces clubs qui ont remporté 6 titres sur une saison. Vous en avez parlé en début d'émission.
Ouais.
PSG, Barcelone, le Bayern.
Et ouais.
Voilà. Et l'OM, non.
Et PSG, Barcelone, le Bayern, on a 3 représentants.
C'est magnifique.
Ouais.
C'est magnifique. Et dont un qui a marqué l'histoire du club en Espagne.
Jérôme ? Ah non, pardon. Oui.
On y va ?
Il a gagné un titre.
Allez, au revoir là.
Bon, non. Allez, on y va. Flash. Quelle est la particularité temporelle de l'exploit bavarois comparé aux Catalans et aux Franciliens ? Ouais, j'ai mis des mots de météorologue.
Ça va les gars, particularité temporelle ?
Mondial des clubs, ils ont gagné.
Alors,
non, c'était au.
Temporel, c'est le
ça
temps.
S'est fini un an après avec le Covid.
Magnifique.
Allez, 1-0.
Il a, ils ont gagné cette fameuse Coupe du Monde des clubs qu'en 2021.
Moi, j'ai pas compris la question.
Non, mais là, je partais avec de la réponse.
Ah, tiens, on va tout de suite au service après-vente des émissions. Omar et Fred.
Ah, allez.
Qui était le coach du Bayern cette saison-là? Donc, vous avez compris, hein, la saison où il gagne la Ligue des Champions pendant le Covid.
2019-2020. Indice, il coach toujours un grand club européen.
Et deuxième indice, faut pas le croiser quand tu roules trop vite.
Guardiola, Pep.
Non.
Non.
Il coach en Espagne.
C'était l'adjoint de Kovac à la base. On l'a pas. On va annuler la question.
Une fois.
On annule la question, Hansi Flick.
Exactement. On en reste à 1-0 pour Jérôme et Fred.
Pour ça que Jérôme, faut pas le croiser quand tu roules trop vite. Question de Noël. Alors attention, parce qu'après particularité temporelle, maintenant faut être polyglotte.
Alors. Est-ce que vous m'entendez, les amis?
Oui.
J'ai dit Hansi Flick 10 fois.
Oui, mais c'était les auditeurs qui jouaient.
Bon ça que t'as coupé.
Jean-Pierre.
Allez, pas mal.
C'est pas grave. Allez, remettez-vous dans votre quiz.
Ça arrive à tout le monde de passer à côté d'un quiz, je peux te le dire.
C'est ça, ouais. Pour une fois, je répondais à une question.
C'est ça. Il insistait. On s'y flique.
Donc attention, faut être polyglotte. Quel joueur du PSG tombe souvent du ciel à Noël? Du coup, dans sa langue.
Alors.
Qu'est-ce qui tombe du ciel l'hiver?
Tombe du ciel l'hiver.
Snow.
Ouais. Bah alors du coup, il est pas anglais.
Neves.
Bonne réponse, puisqu'en portugais, neve veut dire la neige.
Très intéressant. Ouais. Alors, partout entre Omar et Fred, entre le reste du monde et Jérôme.
On vous parle du Paris Saint-Germain, du Bayern et du FC Barcelone. Quel joueur a participé à deux de ces saisons historiques,
hein? Ah, pas mal ça.
De quoi? Vas-y, redis.
Barça 2009, Bayern 2020, PSG 2025. Il y a un joueur.
Il y a un joueur. Il était là deux fois.
Pas mal.
Lewandowski.
Non.
Non.
Mais t'es dans un des deux bons clubs.
Lucas Hernandez.
Oh,
magnifique.
2-1.
Je dois Lucas du monde. Hernandez, question du gars.
Ah.
Faites comme moi, soutenez la fondation.
Je fais des tours, cherche-moi, je fais des détours. Ce soir, j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour.
Thierry Henry, ancien coéquipier de Dugas, était dans l'effectif de ce fameux Barcelone 2009. Mmh. Mais je vais vous parler d'un de ses buts qui m'a rendu le plus fou. Contre qui marque-t-il lors de son retour mythique à Arsenal en 2012?
Crystal Palace.
Un indice.
Non.
Je vous donne un indice. Bielsa. Même si c'était pas là, il n'était pas là
Leeds,
au moment.
Mais Leeds.
Voilà. Alors voilà. 3-1 allez, dans le reste du monde.
Leeds United.
Wow. Déjà la routine.
Le score est remis à zéro.
Oh là. Voilà.
C'est rageant.
C'est rageant.
À chaque fois, c'est la même chose.
Allez, du gars, JPP. Faites-le au moins pour Omar. Ouais. Allez.
Faites l'amour pour la France, ça c'est Louis Sarkozy. On va faire une question con, tiens.
Ah
ouais, ça va être sympa.
Là, je suis mal.
Et elle est très très con.
Ah
bah je suis très très mal alors.
Quel joueur de ce fameux Bayern aurait pu être une chanson de Naps sur la cuisine?
Alors Naps, quoi que ça me dise.
Naps, non mais qu'est-ce qu'il raconte, putain.
On peut envoyer là, on envoie là.
La France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il pense.
Il faut quoi, trouver le chanteur, c'est ça?
Non, trouver.
Mais
trouver
bon, un joueur. En gros, Naps, il dit la kiffance. Et s'il avait fait une chanson sur la cuisine?
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Lewandowski.
Ah, je l'ai.
Il est français.
Ah ouais, mais il a pas marqué le Bayern.
Coman.
Non. Il a fait un tour à l'OM.
Ah oui, bon, je l'ai plus. C'est l'autre, le milieu de terrain gaucher là.
Oui.
Initial.
Cuisant.
Oui. Oh, c'est qui? Je crois que c'est Jean-Pierre.
Non, c'est Jean-Pierre.
Bravo Jean-Pierre.
Cuisant, c'est Jean-Pierre.
C'est la cuisance.
c'est la cuisance.
C'est
oui.
Magnifique cadeau. Bravo Omar, félicitations.
Alors, ce quiz il était
tous
mauvais.
Tous contre Roten alors... sur RMC avec l'enceinte prodige de la marque française Absolument. Éco-responsable, durable et haute fidélité, c'est l'enceinte de toute une vie. Rendez-vous sur a-absolument.fr.
Ne finit pas.
Tous les trois, une note sur le quiz sur 10. La note sur 10 sur le quiz, Jérôme.
2, 1.
Ok, Dugas, une note. Elle est partie.
C'est vrai.
Jean-Pierre, toi, tu mets quelle note au quiz?
Ouais,
est parti.
Ok, ouais, d'accord. Donc les
de respect
ils
total.
Ils sont tous partis.
Merci à Louis Jabier.
Bravo Louis.
Félicitations à Omar. Et dans un instant.
Et bonnes vacances, Louis. Ah non, tu seras là demain.
Je suis là demain.
Bon. Génération After ce soir de 20h à 22h.
Merci Benoît. Écoute, c'était une magnifique émission. Vous pouvez tout réécouter en podcast. On s'est régalé aujourd'hui et demain. Dernière émission de l'année. Donc, soyez au rendez-vous à partir de 18h. Ça ne s'arrête jamais. Mais demain, c'est la dernière. Donc, beaucoup de surprises à partir de 18h dans Roten sans flamme. Et surtout, un super cadeau à vous faire gagner tout au long de l'émission. Donc, allez-y, 18h demain. Dernier Roten sans flamme de l'année. Bisous, à demain.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.